السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عفوا، نصمناندي لو 3 محرم من شهر محرم، 3 من شهر محرم 1428 هجرية بإذن الله عز وجل، صادير لو 22 جانفي 2007. بإذن الله عز وجل. Nous sommes, inshallah ta'ala, dans le 19e cours. 19e cours du fiqh. La fois passée, on va réviser très vite, on avait parlé de shurut salat. On avait cité parmi les shurut, premièrement, dukhul al-waqt. Et deuxièmement, c'est-à-dire on ne peut pas faire une salat avant que ne rentre son heure, nous la son moment. Deuxième condition, at-tahara min al-hadath. On doit se purifier min al-hadath. Al-hadath, on avait dit que il y avait al-hadath al-asghar ou al-akbar. Troisièmement, tathir al-thawb ou al-badan ou al-makan min al-najasa. On devait purifier le corps et l'endroit de, où on va faire la prière, et les vêtements aussi de la najasa, de la souillure. Quatrièmement, on avait parlé de setr al-awra, qu'on devait cacher sa awra pour faire la salat. Ensuite, on avait dit qu'est-ce qu'il fallait, que fallait couvrir l'homme, On avait terminé par on avait parlé sur la cuisse. La cuisse de l'homme par rapport à l'homme. Est-ce que c'est une aura ou bien c'est pas une aura? Et on avait dit que, la cuisse, la aura, en fait, elle se divise en deux parties. La aura al-mughallada, si on peut dire la aura yani, qui est lourde. Et il y a la aura qui est légère. La aura lourde, c'est les parties intimes. Mughallada, je ne sais pas comment on dit, mais je vous dis à peu près. Disons, hein, grave et pas grave. Donc il y a les parties intimes, ça c'est la aura mughallada, lourde et grave à voir. Et où la a touché. Ensuite il y a la aura mukhaffafa. Légère, c'est les cuisses. Donc les cuisses, c'est aura, mais c'est léger par rapport à Ayajibu, ou bien je crois qu'on s'est arrêté là, Jibu, Al-Almi, Sitrofi Salat. Que doit cacher la femme quand elle est dans la salat? D'ailleurs, je crois qu'on a parlé de ça, il faut que je me souvienne si on a parlé de ça, on n'a pas parlé une seconde. Non. Ça y est. Supposons qu'on ait parlé, je vais réviser très vite. Ina zinatahunna illa ma zahara minha. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طيب نفقهم جزاك الله خيرا. الله تعالى دي إكن نمتح با leur parure sauf ce qui paraît d'elle. طيب كيف ça veut dire sauf ce qui paraît d'elle, etc. C'est ça le درس بإذن الله تعالى يعني d'aujourd'hui, ou bien le début du درس. قال ابن كثير رحمه الله. Ibn Kathir a dit, rahimahullah, en expliquant ce verset, qu'elles ne doivent montrer de leur parure que ce qui paraît, il a dit أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. Il a dit, ça veut dire que les femmes ne doivent rien montrer de leur parure aux étrangers, sauf yani, la chose qu'on ne peut pas cacher. Sauf les choses qu'on ne peut pas cacher. C'est pour ça que certains ont dit, c'est quoi la chose qu'on ne peut pas cacher? Ils ont dit par exemple, c'est le djilbab. Le djilbab, on ne peut pas le cacher. C'est le foulard. Le foulard, on ne peut pas le cacher, on le montre. يعني si la femme a seulement un foulard sur la tête. قال شيخنا حفظه الله الشيخ الألباني a dit dans son livre جلباب المرأة المسلمة. Il a dit وقد اختلف أقوال السلف في تفسيرها. Il a dit les salaf ont divergé sur le sens de ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Quelle est la chose qui leur est permise de montrer. Il a dit قد اختلفوا. فمن قائل certains ont dit certains ont dit ce sont les vêtements apparents, les vêtements qu'elle met, elle peut les montrer aux étrangers. Et certains ont dit certains ont dit c'est le noir qu'on met dans les yeux, elle peut le montrer, la bague, le bracelet et le visage. وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في تفسيره. أي إلى دي شيخ الألباني الله يرحمه. أي يعني يا دوتر. Certains ont dit d'autres choses. Tamallah écrit. Veuillez patienter, le cheikh ne va pas tarder, inshallah. Je n'ai pas compris, moi. Je croyais avoir commencé le dars depuis 10 minutes. J'ai pas compris maintenant, j'arrête. J'ai pas compris, c'est Tamallah qui n'écoute pas ou là c'est moi qui n'a pas de sang, je ne sais pas. Tayyip. Je dois écrire donc à celui-là. Donc, alhamdoulilah, il saute. Tamallah, il y a un de mouchkila. Cheikh Al-Albani a dit. C'est l'Égypte, non. Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, a dit. الحمد لله. الشيخ الألباني هذه وأولى الأقوال في ذلك بثواب قول من قال عن بذلك الوجه والكفين. الشيخ الألباني هذه et le plus juste de ce qu'ont dit les ulama, c'est quoi? Il a dit c'est qu'elle pouvait montrer le visage et les mains, الوجه والكفين. ويدخل في ذلك et ça rentre dans le visage et les yeux. Il a dit ça rentre le noir des yeux, la bague, السوار, le bracelet et le aîné et le aîné. وإنما قلنا ذلك أول الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجمع على أن كل مصلي أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها. Il a dit Cheikh Al-Albani, pourquoi on a dit ça? Parce que tous ils sont unanimes pour dire quoi? Pour dire que dans la salat, pour dire qu'en général, chacun est obligé de cacher sa aura, mais que la femme dans la salat montre son visage et ses deux mains. Montre son visage et ses deux mains. Bien sûr, celles qui sont convaincues que le visage et les mains sont aura, celles-là, dans la salat, s'il y a des étrangers avec elles, elle ne peut pas montrer son visage et ses deux mains. Elle prie à visage découvert, à visage couvert avec des gants. Mais si elle était convaincue de l'avis du Cheikh Al-Albani, ça veut dire que elle pouvait prier avec visage découvert et main découverte, puisqu'elle sort comme ça dans la rue. Naam. Fa ma'na al-aya hina idin. Donc le sens de elles doivent cacher, elles doivent se rire. Illa ma zahara adatan bi idni shari'a. Ce n'est pas qu'elle peut montrer la chose qui paraît d'elle-même, mais elle peut montrer la chose que Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète lui ont permis de montrer. Naam. C'est pas seulement elle montre la chose qui se montre d'elle-même. Quand elle sort, elle est obligée que les gens voient son djilbab. Mais s'il veut dire qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose de plus, c'est quoi? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de montrer ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on avait dit, la fois passée, une règle qui était très importante, on avait dit que une chose, peut-être, peut-être aura dans la salat et elle ne et tout en n'étant pas aura hors salat. Et une chose, on avait dit le contraire, et une chose, peut-être, elle n'est pas aura dans la salat, et pourtant, elle n'est pas aura hors de la salat, et dans la salat, elle est aura. Je répète la règle. Une chose, peut-être, aura dans la salat, et non aura quand elle n'est pas dans la salat. On avait donné le délil de quoi, pardon, l'exemple de quoi? L'exemple des cheveux de la femme. Les cheveux de la femme, quand elle est, la femme, elle n'est pas en train de faire le salat, ce n'est pas une aura pour elle par rapport à son père, à son mari, à ses enfants. Elle peut montrer ses cheveux à son père, à son grand-père, à son mari, à ses enfants, à tous ceux qui ne peuvent pas se marier avec elle. Donc ce n'est pas une aura des cheveux devant les maharim. Mais quand elle rentre dans la salat, ses cheveux deviennent aura. Ça veut dire qu'elle est obligée de cacher ses cheveux quand elle est dans la salat, même si elle est seule. Même si elle est seule dans sa chambre ou seule dans sa maison, elle est obligée de cacher ses cheveux dans la salat. Puis maintenant, le contraire, une chose peut être non aura hors de la salat et elle devient aura dans la salat. C'est quoi par exemple? C'est les épaules de l'homme. Naam. Yani, un homme peut montrer ses épaules devant un homme, mais quand il est dans la salat, il est obligé de cacher ses épaules. On avait donné les délits de cette chose. Ensuite, Cheikh Lahmou, Cheikh Al-Albani a dit, في تمام المينة صفحة 160 روى ابن أبي شيبة في المصنف tome 4 page 253 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما quand il a expliqué ce verset, il a dit الكف ورقعة الوجه. Il a dit, ça veut dire la femme peut montrer quoi? Il a dit les mains et le visage. Les mains et le visage. روى نحو ابن عمر بسند صحيح أيضا. Et Abdullah ibn Umar رضي الله تعالى عنه a aussi dit ceci, a dit le visage et les deux mains. Wa an Abd al-Razzaq min tariq Umm al-Hasan radiyallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Ra'aytu Umm Salama, j'ai vu la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Salama, tusalli fi dir' wa khimar, en train de faire la salat avec un foulard sur la tête et un qamis, yani qamis de femme, bien sûr, qamis de femme. Comme l'homme a un kamis, il y a ce qu'on appelle la djibba. Djibba, c'est quelque chose que met une femme comme un kamis. Elle le met beaucoup à la maison. Au lieu d'être yani avec une jupe ou là, elle met ce qu'on appelle djibba. Il y a beaucoup en Algérie, surtout en Kabylie, il y a au Maroc, c'est spécialement arabe. Donc, il est possible que la femme fasse la prière avec quoi? Avec un foulard sur la tête et le kamis, c'est-à-dire la djibba. Ça s'appelle dira en arabe. وعن عبيد الله الخولاني وكان يتيما في حجر ميمونة كاد عبيد الله الخولاني إلى ذي أن ميمونة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي توجه لبخيه في الدرع والخمار avec le قميص et un foulard sur la tête ليس عليها إزار. Elle n'ajoutait pas une cape, elle n'ajoutait pas une cape sur les épaules. قال شيخنا في تمام المنة قال الشيخ الألباني في تمام المنة page 162 وفي الباب أثار أخرى. Il y a beaucoup de choses des صحابة et des تابعين مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم. Il y a beaucoup de textes comme ça des صحابة et des تابعين qui prouvent que le fait que la femme fasse la prière avec un foulard et un kamis, c'était très connu chez eux. Et c'est le minimum avec lequel une femme doit cacher sa aura dans la salat. Ça veut dire le minimum, elle doit avoir un foulard et un qamis. C'est le minimum. وَلَا يُنَفِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَوْ مَا رَوَى إِبْنْ أَبِي شَيْبَ وَالْبَيْهَقِي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار. C'est Cheikh Al-Albani Rahmou a dit, il n'y a pas de contradiction quand on a dit qu'elle peut faire la salat avec un khimar et un qamis, et il n'y a pas de contradiction avec cela et ce qu'a dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. dans un hadith authentique, il a dit, la femme fait la prière, doit faire la prière dans trois vêtements. Trois vêtements. Le qamis, la djibba, le khimar, le foulard sur la tête, ou un izar, et une cape. Une cape qu'elle met sur les épaules et qui descend. Sheikh Al-Albani a dit, il n'y a pas de contradiction entre ce qu'a dit Omar ibn Khattab et ce qu'on vient de dire nous, qu'elle fait la salat avec deux choses seulement, deux vêtements au lieu de trois. Comment qu'on va joindre entre les deux? On va dire mettre deux vêtements seulement, un foulard et un kamis, c'est le minimum et la condition nécessaire pour faire la salat par rapport à une femme. Et ajouter une troisième chose sur les épaules qui descend, c'est le plus parfait. Non, il n'y a pas de contradiction. Ça, deux vêtements, c'est obligatoire. Si on ajoute un troisième, c'est mieux. C'est tout, c'est mieux. Non. Et nous, toujours, quand il y a comme ça des divergences entre les ulama, regardons ou écoutons ce qu'a dit Salama. Salama, radiyallahu ta'ala anha, c'est l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse dire, je connais la femme, je connais la salat des femmes mieux que l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est impossible. Non. C'est impossible que quelqu'un connaisse la salat mieux que la salat de la femme et qu'est-ce qu'elle doit faire et ne doit pas faire dans la salat mieux que l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand c'est quelque chose qui a rapport aux femmes, c'est les femmes qui le connaissent le plus. Regardez ici ce qu'a dit Salama radiallahu ta'ala anha. وسئلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ماذا تصلي فيه المرأة من ثياب؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنها on lui a posé la question. Avec quoi la femme doit faire la prière? Quels sont les vêtements avec lesquels la femme doit faire la prière? On va voir ce qu'elle a répondu رضي الله تعالى عنها. Elle a dit فقالت في الخمار, elle a dit avec le foulard. Quand je dis le foulard, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Pour qu'on soit yani, bien, on se comprenne dans les mots et le lexique. Hein. Le foulard, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Maintenant, en France, par exemple, c'est interdit à la femme ou à la fille d'aller à l'école avec le foulard. Le foulard, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Je ne parle ni du djilbab, ni du hijab. Je parle avec quoi on se couvre la tête. Salama a dit, la femme fait la prière avec le khimar, donc le foulard sur la tête, والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. Elle fait avec le khimar et le vêtement, je venais dire tout à l'heure, le dir qui commence par les épaules, comme un homme quand il met le kamis, il le met, il rentre sa tête et le kamis commence par les épaules et il descend. La même chose, des fois la femme a quelque chose qui commence par les épaules, soit elle rentre sa tête, ou bien il s'ouvre avec des fermetures éclair, ou bien il s'ouvre par exemple avec des boutons. Et il commence par les épaules et il descend. Elle a dit, ça s'appelle dir'a. Elle a dit, dir'a sabir. Elle a dit, le kamis de la femme qui est large, soit pas collé à son corps. Il faut qu'il soit assez large. Ensuite, elle a dit, الذي يغيب ظهور قدميها. Elle a dit, il est large et il descend. Au point où il cache ses pieds. Ça veut dire que la femme, quand elle fait la prière, elle doit cacher ses pieds. Maintenant, si le kamis est un peu court, au moins qu'elle mette quoi? Qu'elle mette des chaussures. Au moins qu'elle mette des chaussures. Maintenant, si le kamis descend jusqu'à toucher le sol, c'est pas la peine qu'elle mette le kamis. Mais quand elle fait le soujoud, elle doit laisser ses pieds à l'intérieur du kamis et non pas les faire sortir du kamis. Elle ne doit pas dire que je suis seul, il n'y a personne qui me voit, il n'y a pas d'étranger. On dit non, ça c'est la aura entre toi et Allah. C'est pas la aura entre toi et les gens. C'est la aura entre toi et Allah. Et ce hadith, c'est un hadith sahih, il a rapporté, a été rapporté par l'imam Malik fil Mawta. Et jawada isnadahu al-Nawawi fil Majmu'a. Al-Nawawi, rahmatullah, a dit hadithun jayyid. Ce hadith est très bien. Naam. Voyez. Autre chose. Le mot alif, l'écrivain ici, yani la Aouaïcha a dit وقد سألت شيخنا حفظه الله. Et j'ai demandé à Sheikhana Hafidahullah. Il a dit ceci, bien sûr, quand Sheikh Al-Albani était vivant. Maintenant, il est mort. Ça veut dire, j'ai demandé au Sheikh Allah Yirahmou. Afwan. Il a dit, Amman labisa thawban khafifan bihaythu yubayinu lawna al-jald. Il a posé à la question. Sheikh Al-Albani, Allah Yirahmou, il lui a dit, que penses-tu de quelqu'un qui fait la salat avec un vêtement transparent qui montre la peau de celui qui fait la salat. Min bayad ou humra, yani il est tellement transparent ce vêtement qu'on peut voir cette personne si elle a la peau blanche ou là par exemple elle a la peau rouge ou la marron. Qu'a répondu Cheikh Al-Albani Rahmou? Il a dit idha kana al-libas khafifan بحيث يصف العضو فهو كالعاري. Il a dit si maintenant la personne fait la est transparent au point où il montre la couleur de la peau, il a dit c'est comme s'il faisait la salat nue, il n'y a pas de différence. Naam. Pourquoi Allah Azza wa Jalla t'a demandé de le vêtement? Pour cacher ton corps. Maintenant si quelqu'un en voyant avec quoi tu fais la salat, il peut savoir, alors qu'il ne connaissait pas auparavant, il peut savoir si tu es blanc de peau ou la brun ou la noire, ça veut dire que ta salat ne compte pas, elle est annulée. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu faisais la salat nue. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que dans le hadith qui est très connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a deux sortes de gens qui vont aller en enfer et que je n'ai pas encore vu. La deuxième sorte, il a cité, il a dit « Wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat » jusqu'à la fin du hadith. « Ala ru'usihna kasiyatun » la fin du hadith. Il a dit quoi? Kassiyat, des femmes habillées et nues. Comment qu'elle peut être en même temps habillée et nue? Naam, elle peut être habillée et nue en même temps. Elle est habillée, mais habillée d'un habit qui montre par exemple sa aura. Habillée d'un habit qui n'est pas shara'i. Donc, elle est kassiya. Elle est habillée par rapport aux gens, nue par rapport à Allah. Naam. Ce n'est pas le vêtement que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de mettre. Bon, maintenant, une nouvelle chose. هَلْ يَكْشِفُ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ. On a vu que la femme devait obligatoirement cacher ses cheveux. Même si elle était seule dans sa chambre, elle doit cacher ses cheveux et cacher yani son corps avec quelque chose de long et comment on dit en français, large, qui descend jusqu'à cacher ses pieds. Maintenant, on parle de l'homme. هل يكشف الرجل رأسه في الصلاة؟ Est-ce que l'homme doit peut faire la prière avec sa tête découverte? Est-ce que l'homme peut faire la prière avec la salat découverte? طيب. قال الله تعالى, الله سبحانه وتعالى a dit يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله سبحانه وتعالى a dit prenez être humain, prenez votre parure devant dans chaque salat ou bien chaque tawaf, prenez votre parure. Naam. Qala Ibn Kathir fi tafsiri, Ibn Kathir a dit dans son tafsir, qu'est-ce qu'il a dit? Qala Al-Awfi an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kana rijalun yatufuna bil bayti uratan. Il y avait des hommes qui tournaient autour de la Kaaba nus. Il y avait aussi des femmes qui tournaient nues. Naam. Et il y avait aussi des hommes qui tournaient autour de la Kaaba nus. Fa amarahum Allah azza wa jalla bizina. Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de prendre leur parure avant de faire le tawaf. Naam. Wa zinatul libas. Et la parure, c'est quoi? C'est les vêtements. Wa huwa ma yuwari sou'ata. Et c'est ce qui cache les parties intimes. C'est ce qui cache les parties intimes. Il a dit wa ma siwa dhalika min jayyid al-bizz wal mata'. فأمرهم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de se cacher la aura pour chaque tawaf et pour chaque salat وقال ensuite Ibn Kathir a dit ولهذه الآية وما ورد في معناها. Donc à cause de ce verset et des versets qui lui ressemblent, من السنة التجمل عند الصلاة. C'est de la sunna de s'embellir devant avant chaque salat. Naam. Avant chaque salat, il y a quelque chose qu'on est obligé de faire, c'est se couvrir la aura. Et il y a quelque chose que c'est sunna de faire, c'est pas obligé, mais c'est sunna, c'est quoi? C'est de s'embellir. S'embellir avant la salat. Wala siyama yawm al-jum'a wa yawm al-'id. Plus spécialement, le vendredi et le jour de l'Aïd. Et le vendredi, comme vous savez, c'est aussi un jour de l'Aïd. On a trois grands Aïd. On a le petit Aïd après le Ramadan, le grand Aïd après celui du mouton, on égorge le mouton, et on a un Aïd chaque semaine, c'est le vendredi. Chaque vendredi, c'est un Aïd, d'après le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que, si jamais l'Aïd, le petit Aïd par exemple, ou le grand, celui du mouton, tombe un vendredi, on n'est plus obligé de faire la salat du mois. Naam. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Parce que l'Aïd, le petit ou le grand, est tombé dans un Aïd, est tombé le vendredi. Donc deux Aïds se sont rencontrés. Et quand deux Aïds se sont rencontrés, on se suffit d'un seul. Naam. On va pas faire la salat de l'Aïd et on est obligé de faire le Jumwa. On n'est pas obligé. On peut faire seulement salat al-Dhuhr. Au lieu de faire Jumwa, on fait Dhuhr. Pourquoi? Parce que Jumwa c'est un Aïd. Et l'Aïd on l'a fait, là, on l'a fait le matin, 8h du matin. Donc c'est pas la peine, je suis pas obligé de refaire salat Jumwa. Mais je suis obligé de faire quoi? De faire salat l'Aïd. Pardon, salat al-Dhuhr. Naam, je suis obligé de faire salat al-Dhuhr. Pourquoi? Parce que le petit Aïd, qui est le vendredi, rentre dans le grand Aïd qui vient seulement une fois par an, que ce soit le petit, que ce soit celui du mouton. Non. Il y a une règle générale, à chaque fois que deux choses se rencontrent et les deux choses, il est permis de faire rentrer une chose dans l'autre, on se suffit à une chose. Je donne un autre exemple. On peut par exemple, si j'ai une janaba, je peux me suffire seulement au rosl, sans faire les ablutions. Je peux me suffire. Je dis bismillah, je plonge dans la mer. Avec quoi? Avec l'intention, c'est le rosl. À une seule condition, je fais quoi? Je fais une fois ma bouche et mon nez. Et je sors. C'est pas la peine de faire les ablutions. Pourquoi? Parce que ici, je dois faire deux choses. Les petites ablutions et les grandes. Quand je fais les grandes ablutions, les petites rentrent automatiquement dans les grandes. C'est pour ça que je peux me suffire aux grandes ablutions seulement. À condition, comme je viens de dire, de faire la bouche et le nez. De faire la bouche et le nez. Ça y est, Bill a dit. Donc, surtout le vendredi et l'Aïd, on doit faire le maximum pour s'embellir. Et c'est dommage pour nos frères qui font la salat du vendredi, qui la font dans un état sale. C'est dommage pour les mécaniciens et les autres qui font la prière du vendredi avec la salopette du travail, pleine de graisse. Et ils vont te dire que ce n'est pas de la souillure. Non, ce n'est pas de la souillure, mais est-ce que tu as pris ta parure? Est-ce que tu as pris ta parure, comme a dit Allah Ta'ala, khudu zinatakum inda kulli masjid? Est-ce que tu as pris ta zina? C'est pour ça que quelqu'un qui travaille le vendredi, il doit avoir au moins avec lui un kamis dans un sachet. À l'heure de la prière, il sort le kamis du sachet et il le met. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, il est conseillé, ou je vous conseille, d'avoir au moins deux vêtements spécialement pour la Jumu'ah. Ou bien au moins un vêtement spécialement pour la Jumu'ah. On doit tous, surtout les hommes qui vont à la prière du vendredi, on doit tous, nous les hommes, avoir au moins un habit spécialement caché pour le vendredi. On ne le touche pas la semaine. Non. Un habit de préférence blanc. Un kamis blanc, très beau, neuf, propre, avec sa chéchia blanche. Et seulement le vendredi, on prend cet habit, on le parfume et on va à la Jumu'ah. Ensuite, il a dit, وَطِيب أيضًا. Il est conseillé de se parfumer. Le parfum, yani, qui ne contient pas d'alcool, qui ne contient pas plus de 60% d'alcool. Il doit se parfumer le vendredi. Il a dit, لِأَنَّا الطيب مِنَ الزِّينَ. Parce que le parfum, le musc, ça fait partie de la zina. Ça fait partie de l'embellissement. والسواك لأنه من تمام ذلك. نعم il a dit le siwak aussi pour celui qui en a et celui qui peut. ومن أفضل اللباس البياض Et parmi les meilleurs vêtements, c'est la couleur blanche pour l'homme. طيب. Ensuite, il a dit, c'est toujours Ibn Kathir, il a dit, فَإِذَا كَانَ الطِّيبُ وَالسِّوَاكُ وَلُبْسُ الْبَيَاضِ مِنَ الزِّينَ أَفَلَا يَكُونُ غِطَاءَ الرَّأْسِ مِنَ الزِّينَ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ici, mettre du parfum, on a du musc et le siwak, et mettre le blanc, ça rentre dans la parure. Il a dit, est-ce que se couvrir la tête ne rentre pas dans la parure? Non, ça veut dire que se couvrir la tête, ça rentre dans la parure par rapport à l'homme dans la salat. Wa qala shaykhuna al-Albani fi tamam al-Minna, page 164, avec un résumé très court, il a dit, والذي أراه أي ce dont je vois ou de ce dont je suis convaincu في هذه المسألة par rapport à cacher la de l'homme ou ne pas la cacher dans la salat, أن الصلاه حرام. لحظة إن شاء الله. هل فيه صوت؟ طيب هل راجع الصوت؟ نعم. دونك لافي دو الالباني الله يرحمه كيسكي لا دي داكور شاك فوا كيليا با سون لا و ميكتيبي نيميرو 2 ولا 0 pour savoir يعني où j'en suis. Donc d'après l'avis de Cheikh al-Albani rahmo, il a dit, mon avis c'est que faire la salat à tête découverte, c'est makruh. Vous savez ce que c'est le makruh? On l'a fait déjà une fois dans usul al-fiqh. On a dit la différence entre le makruh et le haram, c'est quoi? Le haram, si tu le fais sciemment comme ça, sans excuse, tu as quoi? Des ithm, tu as des péchés. Et le makruh, c'est quoi? Et si tu ne fais pas le haram, tu as un ajr. Et le makruh, c'est quoi? Le makruh, si tu le fais comme ça, exprès, disons ici, tu fais la prière avec cette découverte exprès, tu n'as pas de péché, tu n'as pas de ithm. Mais si tu ne le fais pas, c'est-à-dire si tu te couvres, tu as un ajr. C'est ça le makruh bi-ibn al-Zawjah. Cheikh al-Albani a dit, c'est makruh pour un homme de faire la salat à tête découverte. Pourquoi il a dit? Zalika, أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم. Il a dit, Cheikh Al-Albani, pourquoi c'est makruh? Parce que يعني, il est préférable, tout le monde sait cela, que on doit rentrer dans la salat tout en étant parfait dans la pureté, parfait dans les ablutions, parfait dans les vêtements, parfait يعني dans يعني l'apparence, dans notre apparence. Ensuite il a cité un hadith sahih, il a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sahih, où il a dit, inna allaha ahaqu an yutazayyana lah, inna allaha ahaqu an yutazayyana lah, le hadith sahih dans sahih al-jami'. Qu'a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le plus de droit à ce que on s'embellisse pour lui. Subhanallah al-Azim. Naam. Inna Allah ahaqu an yutazayyana lah. Allah subhanahu wa ta'ala, yani s'il y a quelqu'un à qui on doit s'embellir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui avant tous les autres. Voilà le sens après du hadith. Il a dit, Cheikh al-Albani dit toujours, wa laysa min al-hay' al-hasana fi 'urf al-salaf i'tiyadu hasr al-ra's wa al-sayr kadhalika fi al-turuqat wa al-dukhul kadhalika fi amakin al-ibadat. Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, a dit, et ce n'est pas une bonne apparence dans les coutumes et les mœurs des salafs, radiallahu ta'ala anhum, les salafs, ce n'était pas de leurs habitudes, il a dit, de se découvrir la tête, et de marcher ainsi dans la rue, à tête découverte. Il a dit ça, ce n'est pas les salafs qui faisaient cela, ni d'entrer dans les ibadat avec quoi? Avec la tête découverte. La ibadat, c'est spécialement ici salat, bien sûr. Bel hadihi adatun ajnabiyya. Mais au contraire, il a dit, c'est une habitude yani étrangère. Ce n'est pas une habitude des musulmans. Tasarrabat ila kathir min bilad islamiyya. Cette habitude est rentrée dans les pays musulmans. Chinama dakhala al-kuffar. Lorsque les kuffars ont colonisé les pays musulmans. Lorsque les kuffars ont colonisé les pays musulmans, ils ont ramené avec eux beaucoup de mauvaises habitudes. Il a dit, parmi ces mauvaises habitudes, c'est quoi? C'est de découvrir la tête. Ou illa, car c'est pas lui qui dit, c'est pas l'Albani, c'est moi qui dis ça. Vous pouvez, ceux qui ont les photos de leur grand-père et arrière-grand-père, il est impossible que l'un de nos grands-pères, par exemple, ait découvert ses cheveux. C'est impossible. Que ce soit dans la salat ou hors salat. Yani, c'était pour eux presque quelque chose de haïb. Quelque chose de haïb si un homme découvrait ses cheveux. Yani, c'était comme une femme si elle montrait ses cheveux aux hommes. Même les hommes entre eux, ils se crachaient quoi? les cheveux entre eux. Ensuite, il a dit, Cheikh Al-Albani a dit, Jalabuha ilayha, afwan, Jalabu ilayha adatin fasida. Il a dit, lorsque les kuffars ont colonisé les pays musulmans, ils ont fait venir leurs mauvaises habitudes. Faqalladahum muslimuna fi dhalik. Et les musulmans les ont imités en cela. Fa'adha'u biha wa bi amsalha min at-taqalid shakhsiyatan islamiyya. Et en imitant les kuffars, en se découvrant les cheveux, il a dit, ils ont fait perdre ou ils ont perdu leurs habitudes islamiques. Les habitudes islamiques. Naam, à chaque fois que tu imites un kuffar dans une de ses habitudes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu délaisses une des habitudes des musulmans. فهذا العرض الطاري لا يصلح ان يكون مصورا لمخالفه العرف الاسلامي السابق ولا اتخاذ حجه لجواز دخول الصفحه الرابعه. Il a dit, et le fait que les kuffars nous ont colonisés, ce n'est pas une excuse valable pour rentrer dans la salat à tête découverte. Car certains se disent, ou la te disent, c'est les kuffars qui nous ont rapporté cette habitude. Cheikh Al-Albani a dit, ce n'est pas une excuse. Tu dis pas, yani, ça, ce n'est pas une excuse. Et pas, personne ne t'a enchaîné, ni t'a obligé de suivre les kuffars et de les imiter. Ensuite, il a cité un dalil de ceux qui disent c'est permis de rentrer dans la salat à visage, à tête découverte. Ils ont dit ce n'est pas makruh. Ils ont dit pourquoi? Un dalil très 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 faible et qui ne convient jamais. C'est quoi leur dalil? Ils ont dit quelqu'un quand il va au hajj, il montre sa tête. Naam, il montre ses cheveux, pardon. Je ne sais pas, c'est pas interdit. Ils ont dit alors.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان صوت ما شاء الله. Je pense que le chir doit avoir un problème de son. Donc nous allons patienter pour attendre son retour inshallah. Barakallahu fikoum. Akhi Yus, tu peux mettre du Coran une fois de l'équipe ou autrement Ah, mashallah, le chir est là, donc je vais lui laisser le micro, alhamdulillah.
Salam alaykoum, fesso. Naam. Barakallahu fikoum. La sœur qui vient de m'envoyer un message, barakallahu fikoum, sinon là, j'aurais jamais su que j'étais déconnecté. Où est-ce que je me suis arrêté? Est-ce que je parlais de l'homme qui se découvrait les cheveux? Mais j'en étais haut. Est-ce que j'ai parlé de ceux qui ont fait l'analogie par rapport au muhrim? Ils ont dit le muhrim, il peut montrer ses cheveux au hajj. Alors dans la salat, on peut montrer ses cheveux. Est-ce que j'ai parlé de cela? Est-ce que j'ai parlé de muhrim quand il est au hajj? Ils ont dit il peut montrer ses cheveux. Est-ce que j'ai parlé de ça? Est-ce que vous m'avez entendu parler de cela? Mes notes. Okay. Juste le début, d'accord. Un peu, d'accord. Inch'Allah ta'ala, une seconde, je vais boire et je reviens. Je tousse beaucoup, une seconde. Salam alaikum. Je dirai très vite, certains se sont basés sur le hajj, ils ont dit, celui qui va au hajj, il est obligé de montrer ses cheveux. Il montre ses cheveux. Ils ont dit, donc dans la salat, c'est la même chose. C'est la même chose, on fait qiyas. On dit, comme le hajj peut montrer ses cheveux dans le hajj, le prieur aussi peut montrer ses cheveux dans la salat. Par analogie, par qiyas. Cheikh Al-Albani a dit, ça c'est vraiment faible. Il n'y a pas plus faible que cela. Pourquoi? Parce que si c'était vrai ce qiyas, donc vous serez obligé de dire que quoi? Que dans la salat, on est obligé de montrer ses cheveux. Non seulement on ne les cache pas, mais on est obligé. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai qiyas. Le hajj, qu'est-ce qu'il fait? Le hajj, il est obligé de montrer ses cheveux dans le hajj. S'il les cache, il doit payer. Ça, il les cache. Il a la fidya. Donc il est obligé de montrer ses cheveux. Alors dites, on est obligé dans la salat de montrer ses cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire on est obligé? Ça veut dire que quiconque cache ses cheveux dans la salat, il a des péchés, il a des ismes. Comme ça, d'après vous, na'am. Alors jamais, au grand jamais, il y a un alim qui a dit cela. Jamais. Si certains ont dit, c'est permis de montrer les cheveux, aucun n'a dit, c'est obligé de les montrer. Donc, Cheikh Al-Albani Lahmou a prouvé que, yani, de préférence, c'est quoi? C'est de faire la salat à tête couverte. À tête couverte. Si on l'a fait à découvert, ce n'est pas haram pour l'homme. Ce n'est pas haram, mais il a laissé des ajr. Il a laissé des ajr passer. Ensuite, Cheikh Al-Albani a dit Lahmou, et ceux qui disent que on se découvre la salat juste pour le khushu'. Il a dit, quand j'ai pas les cheveux couverts, je sens un peu de concentration, de khushu', etc. Il a dit, ça, c'est yani batal. Ça, c'est batal. Et ce n'est pas vrai. Il a dit, pourquoi? Il a dit, car s'il y avait le khushu', si on pouvait avoir la concentration quand on découvrait les cheveux, alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie qu'il a fait la prière, il n'a jamais fait une prière à tête découverte? Alors pourquoi? Il avait le khushu' quand on se découvrait. Et il a dit, وَلَوْ فَعْدَهُ لَنُقِلَ عَنُوْ. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une fois la prière à tête découverte, ça aurait été rapporté dans les livres. Car les sahaba aiment beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le guette dans le petit et le grand. À chaque fois qu'il fait une chose, il la note, il la rapporte. Or, il n'y a aucun hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait au moins une salat à tête découverte. Il a dit, wa id lam yunqal anhu, et puisque rien de cela n'a été rapporté, dalla dhalika annahu bid'atun fahdharha. Donc, ceci prouve, il a dit, que c'est quoi? Que c'est une innovation, c'est une bid'a, prends en garde. Non, c'est une bid'a. Prends en garde. Non. نعم بارك الله في الاختي على النصيحه نعم اونش كونسيرن الزيت هذه جزاك الله خيرا نعم اسكي دريس بادير ادير باردون cinquièmement on est dans les shurut cinquièmement istiqbal al qibla cinquièmement il est une condition nécessaire de faire la prière en face de la Qibla, en se dirigeant vers la Qibla. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, قَدْ نَارَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ça c'est le verset 144 de Sourate Al-Baqara. Allah Ta'ala dit, certes, nous voyons, ou bien nous te voyons, tourner ton visage en tous sens vers le ciel. Nous te ferons donc orienter vers une direction qui te plaira. Alors tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, Masjid al-Haram. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Ça c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les gens, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dans son habitude et sa sunna qu'il ne voulait jamais faire des choses qui concordent avec ce que font les juifs et les chrétiens dans leurs adorations. Alors, voilà que on faisait, nous, ou là, les musulmans, on faisait la prière dans les premiers temps en se dirigeant vers le Quds, vers la Palestine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu cela et il souhaitait qu'Allah ta'ala lui change de qibla pour que ça ne soit pas la même qibla que celle des juifs. Alors qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois il levait les yeux, il levait sa tête vers le ciel, comme s'il disait comme ça dans son cœur, Ya Allah change-nous, Ya Allah change, sans parler, seulement il levait la tête vers le ciel, comme s'il il attendait yani, la descente de Jibril avec un verset ou quelque chose qui ordonnerait aux musulmans de changer la qibla. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, il lui a dit, certes nous te voyons tourner ton visage en tous sens vers le ciel, nous te voyons. Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfoul, Allah ta'ala n'est pas en train de dormir, il sait, il lui dit, je te vois en train de tourner ta tête vers le ciel, nous te ferons donc orienter vers une direction qui te plaira, donc tourne ton visage vers la mosquée sacrée et où que vous y soyez, tournez-vous, tournez vos visages aussi. Là je voudrais faire juste une petite remarque, mais combien elle a de valeur cette remarque, masha'Allah, elle est simple mais masha'Allah pour le salafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu ce problème et il voulait, il souhaitait qu'Allah ta'ala change de qibla, dans quelle direction il regardait? Il regardait vers le ciel. Et Allah ta'ala lui a dit, nous te voyons tourner, nous te voyons tourner ton visage en tous sens vers le ciel. C'est pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans sa aqida et dans son dogme et dans son credo, que quoi? Que Allah ta'ala est au-dessus du trône, au-dessus des cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tournait pas, ne regardait pas vers la droite, ni vers la gauche, ni entre ses pieds, mais il regardait seulement vers le ciel, en attendant que Allah ta'ala fasse descendre quelque chose. Là, la lune, des plus grandes preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, et il n'est ni à droite, ni à gauche, ni en bas. Seulement, c'est sa science qui est avec nous, à gauche, à droite, en bas, où on est. Dans n'importe quel endroit, il y a la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec nous. Mais lui, subhanahu wa ta'ala, en son essence, bizarre, il se trouve au-dessus du trône. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah ta'ala a voulu ordonner des prières, hein, des saintes prières, il a demandé à Jibril d'aller faire venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'emmener de Mecca à Palestine, et de là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle l'ascension, le mi'raj. Ils sont montés vers le ciel. Ils ne sont pas rentrés dans la terre, ni ils sont partis vers l'est, ni vers l'ouest, ni vers le nord, ni vers le sud. Il est monté avec Jibril, premier ciel, deuxième ciel, troisième, septième, Sidratul Muntaha. Et il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala en l'entendant, sans intermédiaire. Il lui parlait comme ça, Allah je lui répondit. Tu as faisait 50 salats. Et comme ça, le prophète Hassan descend, Moussa alayhi salam lui dit c'est beaucoup 50, il revient. Il lui dit Ya Allah, c'est beaucoup 50. Il lui dit 25. C'est comme ça, 3 fois. Naam. Certains ont dit jusqu'à 6, 9 fois dans cette al-Bari. Mais le plus sûr, Inch'Allah, le plus juste, c'est 3 fois. Al-Muhim, je voulais dire quoi? Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Subhanahu wa ta'ala, au-dessus du trône, naam, au-dessus des cieux. Tayyib. Tayyib. Kana wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila salat. Pardon, j'ai pas terminé. Wa qad warada fi munasabati nuzul hadhihi al-aya hadith Muslim. Ya hadith dans Muslim numéro 525. عن البراء بن عازب قال الصحابي البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أدي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا. Ce compagnon Jalil, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait la prière avec le prophète صلى الله عليه وسلم en me dirigeant vers le Quds 16 mois. Donc les musulmans se sont dirigés vers le Quds 16 mois au début de la salat. حتى نزلت الآية التي في البقرة. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla ait descendu le verset وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. le verset que je venais de lire, où il est dit maintenant, vous devez vous tourner vers quoi? Vous devez vous tourner vers la Qibla, et non plus vers Masjid al-Quds. Qu'il a dit, فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من قوم. Ce compagnon a dit, radiallahu ta'ala, il a dit, ce verset est descendu après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait la salat. Salat al-dhahr ou bien al-asr, ou je ne sais pas quoi, après avoir terminé la salat. Il a dit, il y a quelqu'un, فانطلق رجل من قوم, il y a quelqu'un qui est parti, yani du groupe, du قوم. فمر بناس من أنصار وهم يصلون. Il a trouvé des gens de l'Ansar qui habitaient le Medina. Il les a trouvés en train de quoi? En train de faire la prière. من أنصار وهم يصلون. فحدثهم. Il leur a dit en plein salat. Eux, ils étaient en train de faire la salat. Ils étaient exactement prosternés, mais pas vers la Qibla. La Qibla venait de changer il y a une heure ou une demi-heure ou là un quart d'heure. Il leur a parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en plein salat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers la Qibla. Donc, ce sahabi radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dû leur dire? Il a dû leur dire, barakallahu fikum, tournez un peu à droite, ou tournez un peu à gauche, ou là, yani, tournez yani, complètement. Tournez complètement. La Qibla, c'est dans votre dos. Je crois que c'est le plus juste. La Qibla, c'est dans votre dos. Et comme ça, tout en étant prosternés, ils ont commencé à tourner la tête toujours yani, qui touche le sol ou le tapis, en train de tourner, jusqu'à ce qu'ils aient pris la place qu'il fallait. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'ici comme avantage? C'est que on peut parler à quelqu'un dans la salat. Surtout si c'est quelque chose d'obligatoire. On peut lui parler alors qu'il est dans la salat. Surtout s'il est dans une salat surérogatoire. S'il est dans la nafila, c'est encore yani, plus simple et plus facile. Mais parfois, dans la salat obligatoire, on est obligé de lui montrer. Naam. Pourquoi? Je donne un exemple très simple. Par exemple, si quelqu'un venait, par exemple, comme invité chez moi, et maintenant, sans me dire, il a fait les ablutions, il a commencé à prier. Il a choisi un endroit, il a commencé à prier, la Qibla. Je suis rentré dans la chambre, je l'ai trouvé qu'il n'était pas dans la Qibla. Est-ce que je le laisse comme ça dans le fou? Je suis obligé de quoi? De lui montrer. Ou bien, je vais derrière lui, je le guide, je le prends par ses épaules, si c'est un mahram, je le prends par ses épaules et je le tourne ou bien à droite ou bien à gauche. Mais si c'est quelqu'un que je ne peux pas toucher, je lui parle. Je lui dis, barakallahu fik, yani, prends un peu à droite. Ou la barakallahu fik, un peu à gauche. Ou la barakallahu fik, la Qibla, c'est dans ton dos. Dans ton dos. Qu'est-ce qu'il fait dans la salat? Il commence à tourner d'après la façon dont je vais le guider. D'après la façon dont je vais le guider. Il y a beaucoup de délits que dans la salat, on peut faire des choses. Le premier délit, et ce hadith que je viens de dire de Muslim, où ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, tournez-vous en plein salat. Et en plein salat, ils se sont tournés. Donc quand on peut corriger quelque chose dans la salat, c'est pas la peine de sortir de la salat et de la quitter. Ensuite, de revenir avec une nouvelle salat. Pourquoi? La salat, elle est tellement importante que c'est comme s'il n'y en avait pas deux. Il y a une seule salat qui s'appelle par exemple Dhuhr ou bien Asr ou bien Maghrib dans la journée. Il y a une seule. Si elle part, tu la laisses, yani, tu vas refaire une autre, yani, elle ne peut pas être comme la première. C'est pour ça que dans la salat, on doit toujours corriger les choses dans la salat en faisant les deux prosternations. Quand on fait une fois, on les fait soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, d'après ce qu'on a, où on s'est trompé, etc. Mais ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'il se trompe, il dit salam alaikum. Et de nouveau, Allah Akbar, il commence la salat. Il croit qu'il a fait quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de bien. Non, ce n'est pas quelque chose de bien. La salat, c'est comme un habit. Il n'y a qu'un seul habit dans ce monde. Un seul habit, on te l'a donné. Il n'y a pas son double, il n'y a pas son frère. Maintenant, quelqu'un a brûlé un peu ton habit, qu'est-ce que tu vas faire? tu peux pas commander un autre. Il y a seulement cet habit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas le coudre. Coudre un peu l'endroit où il y a le trou. La même chose, la salat, tu as une seule salat dans un seul jour, une seule salat qui ne se ressemble jamais. Et la salat du dhuhr d'aujourd'hui, ce ne sera pas celle de demain ni celle d'après-demain. Elle ne change, c'est toujours une nouvelle salat. Donc maintenant, la salat a été trouée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu la répares. Tu la répares en ajoutant, en retranchant ce qui manque, plutôt en ajoutant, pardon, et en faisant les deux salat, les deux rak'at, pardon, les deux sujoud de la prosternation. L'idée, il aussi qu'on pouvait par exemple parler dans la salat, n'oubliez pas le hadith de Jurayj, qui est dans Bukhari ou Muslim. La mère qui est venue voir son fils, qui faisait la salat dans un minaret, Soma, il avait un minaret où il faisait toujours la salat. Jurayj, il s'appelait Jurayj. Il n'arrêtait pas de faire la salat. C'était un pieux, c'était quelqu'un de mashallah. Et sa mère est venue, elle était en bas et lui en haut, en train de faire la prière, et elle le voyait d'en bas. Dans un hadith, il est dit qu'il y avait le soleil qui frappait ses yeux, elle a mis sa main sur son front. Comme lorsqu'on a le soleil, on met notre main sur notre front pour voir. Elle a mis sa main sur son front, elle l'a vu en train de faire le salat, elle l'a appelé « Ya Jurayj ». Il lui a pas répondu. Il s'est dit, que dois-je faire? Ma mère ou bien la salat? Il lui a dit, Ya Jurayj, la deuxième fois. Il s'est dit, ma mère, ma salat. Ya Jurayj, la troisième fois. Et il a continué à prier. Et vous connaissez ce, yani, le grand malheur, le grand malheur qui lui est arrivé, parce qu'il n'avait pas répondu à sa mère. Parce que, quand on est dans une nafila, naam, on doit sortir de la nafila et aller à son père et à sa mère. Naam. Parce que la nafila, la salat, c'est une nafila, c'est une surérogatoire, c'est tout. Mais répondre à ta mère et obéir à ton père, c'est quelque chose de quoi? D'obligé. Et si un obligé rencontre quelque chose qui n'est pas obligé, on dévance, hein, l'obligé, et on laisse la chose qui n'est pas obligée. On peut faire aussi quelque chose dans la salat. Si on sait que, je sais que ma mère qui est en train de m'appeler, je sais par exemple que c'est le genre qui supporte et qui accepte si elle savait que j'étais dans la salat. Elle m'appelle, elle ne sait pas que je suis dans la salat. Je peux quoi faire? Je dis par exemple, si je suis en train de lire, je lis un peu plus haut pour qu'elle m'entende. Ou bien, si je vais me prosterner ou la m'incliner, je dis Allahu Akbar fort pour qu'elle m'entende. Je dis Allahu Akbar, ça veut dire que je suis dans la salat. Pour juste qu'elle sache que je suis dans la salat. Maintenant, si elle sait que je suis dans la salat, elle me dit, viens, j'ai besoin de toi. Je suis obligé de quitter la salat si la salat est quoi? Est nafila, surérogatoire. Ensuite, d'autres dalils aussi. Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans le hadith sahih, était en train de faire la salat quand une femme lui a envoyé un peu de gâteau. Un peu de gâteau dans une assiette. Quand la femme ou la fille est rentrée avec l'assiette où il y avait les gâteaux, elle ne savait pas quoi en faire. Elle a trouvé Aïcha, radiallahu ta'ala anha, en plein salat. C'est pas, elle dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Yani, je les pose, je ne les pose pas, j'attends. Aïcha, radiallahu ta'ala anha, dans la salat, lui a fait un geste avec la main, lui a montré comme ça veut dire, pose-les ici. Dans la salat, elle a fait un geste comme ça avec la main, elle a pointé le doigt, ça veut dire, sans parler, ça veut dire, pose-les ici, pose-les, lui a montré ou bien un buffet, ou bien une armoire, ou je ne sais pas quoi, lui a dit, pose-les ici. Ce hadith est sahih. Il y a aussi des dalils, d'autres dalils. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, a vu quelqu'un qui est en train de prier avec la main gauche sur la main droite. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On fait la main droite, on la pose sur la main gauche. Celui-là avait la main gauche sur la main droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu de derrière lui de son dos, et lui a changé la main droite, il l'a mise sur sa main gauche. Naam. Donc ça aussi, c'est sunnah. Quand on voit quelqu'un qui s'est trompé comme ça, on lui montre, on lui corrige à l'intérieur de sa salat. Bien sûr, ceci à condition que quoi? À condition par exemple de ne pas, yani, je ne sais pas comment dire, C'est pas on vient comme ça à l'improviste, on lui fait peur par derrière. Ou là on commence à rentrer comme ça notre main doucement, il va croire qu'il y a un serpent. Il dit celui-là, il y a un serpent qui est sous mes mains. Il va crier dans la salade, peut-être qu'il va tomber évanoui. Non, on va le surprendre, barakallahu fik. On ne surprend pas. Par exemple, on lui dit, je vais te corriger ta salade. Ou bien, je vais te corriger tes mains. Ou bien, on lui parle. On lui dit, tu as la main gauche sur la main droite. Il faut faire le contraire. Pour que quoi? Pour qu'il change la main sur l'autre. C'est pour ça que je me corrige. Maintenant, je me corrige. Quand j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a changé ses mains, j'ai dit, il est venu comme ça, par derrière. Ce n'est pas dit dans le hadith, c'est moi qui l'ai dit. Maintenant, je me corrige. Sûrement, il est venu par devant, pas par derrière. Parce que par derrière, on peut surprendre quelqu'un, on peut lui faire peur. Donc, peut-être qu'il est venu par devant comme ça, il le voyait, et qu'est-ce qu'il a fait? Et il lui a corrigé la salade, il lui a mis cette salade sur l'autre. Et bien sûr, l'autre ne doit pas parler. L'autre qui est en train de faire la salade ne doit pas parler. Ensuite, il y a aussi un autre délit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la porte dans la salade. Il était en train de faire la salade, il a entendu quelqu'un frapper à la porte, il est allé lui ouvrir sans parler. Il lui ouvre et il est revenu marche arrière et il a terminé sa salade. Ce hadith est sahih dans Abi Daoud, sahih Abi Daoud, Cheikh Al-Albani. Et ce qui est très connu dans Sahih Al-Bukhari, c'est là ce qui s'est passé entre Asma et sa sœur Aïcha. Une fois, il y a eu l'éclipse, beaucoup de gens se sont groupés devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma, qui était allée visiter sa sœur Aïcha, radiallahu ta'ala, a trouvé tout ce monde devant la porte. Elle n'avait pas su pourquoi. Quand elle est rentrée, elle a trouvé Aïcha, sa sœur, radiallahu ta'ala, en train de faire la salate. Elle lui a dit dans la salade, « Ma sha'nou nas ?» Pourquoi tout ce regroupement devant la porte ?« Ma sha'nou nas ?» Yani, « Amama bayti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. » Qu'a répondu Aïcha dans la salade ? Elle a levé la tête vers le ciel, yani vers le plafond. Vers le plafond, elle voulait lui dire, à cause de l'éclipse, hein, quand je te montre le ciel, le plafond. C'est quoi ? Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme si elle lui a dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui dans le ciel, tu ne sais pas qu'il y a l'éclipse. Elle a levé la tête comme ça, vers le ciel, ou bien vers le plafond. Alors, Esma lui a dit, Aya, yani à cause du signe, à cause de l'éclipse, elle lui a dit Aya, puisqu'elle a vu lever la tête. Elle lui a dit Aya, qu'a fait Aïcha? Elle a dit oui avec sa tête. Elle a monté sa tête et elle a descendu comme ça. Elle lui a dit oui avec sa tête. À cause, oui, c'est à cause de l'Aya, à cause de l'éclipse, à cause du signe. Tout ça c'est où? Dans la salat. Il y a un hadith dans le Bukhari radiallahu ta'ala anhu que Umm Salama radiallahu ta'ala anha a entendu les gens dire, bon, est-ce qu'il a le son? Dites-moi s'il a le son. Est-ce qu'il y a le son? Jazakillahu khairan. Maintenant, plus je tousse. Et quand ça me prend de la toux, elle reste un mois, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je ne me soigne pas, peut-être pas à cause de cela. Al-Muhim, Umm Salama radiallahu ta'ala anha, on lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours deux prières, deux rak'at après salat al-asr. Ça l'a étonné. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les deux rak'at après l'asr. Elle voulait dire, moi je sais qu'après l'asr, il n'y a pas de salat comme ça, nafila. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à sa maison avec l'épouse avec laquelle il était, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a envoyé une petite fille. Qu'est-ce qu'elle a dit à la petite fille? Elle lui a dit, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans notre chambre en train de faire la prière, tu vas devant lui et tu dis, tu parles, est-ce que tu faisais la prière ou est-ce que tu fais la prière de rak'at après l'asr et tu attends. S'il te fait comme ça un geste avec sa main et te dit, yani, reviens un peu vers l'arrière, attends-le. ça veut dire il va te répondre. Et la fille est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en plein salat, et lui a parlé. Elle lui a dit, les deux rak'at après l'asr, est-ce que tu les fais? Ou quelque chose comme ça. Il lui a fait un geste comme ça avec la main, ça veut dire attends-moi. Elle l'a attendu, et quand il a terminé sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, na'am, j'ai fait ces deux rak'at, parce que d'habitude je les faisais après le dhuhr. Mais il y a des gens qui m'ont retenu, je les ai faites après le asr. Mais le témoin c'est quoi? C'est qu'elle a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat et qu'il lui a répondu avec la main attends-moi. C'est comme toi tu es dans la salat, quelqu'un te dit par exemple tu pars ou tu pars pas, je t'attends ou là je t'attends pas, tu lui réponds avec ta tête, ça veut dire oui ou non, ou bien avec ta main, comme ça oui ou non. Ce sont des choses qui ne sont pas graves dans la salat, surtout quand ce n'est pas nafila bi'idhnillahi azza wa jal. Et dans le hadith de Abi Daoud authentifié par Sheikh Al-Albani Allah yarhamo, que Abdullah ibn Abbas est passé devant quelqu'un qui avait les cheveux groupés comme disons une femme quand elle groupe ses cheveux, elle met par exemple de l'élastique, elle les groupe comme ça derrière sa tête. Alors vous savez que on n'a pas le droit de grouper les cheveux dans la salat. Comme a dit le Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, il a dit que on doit laisser les cheveux comme ça, yani détachés. Il a dit chaque cheveu qui touche par terre, touche le sol, tu as une hasana ou 10. J'ai oublié. Une hasana ou 10 pour chaque cheveu qui touche. Abdullah ibn Abbas, en passant, il a vu quelqu'un qui avait les cheveux attachés derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la salat, il lui a ouvert ses cheveux, il les a dénoués, il a enlevé yani, ce qu'il y avait, il les retenait avec un fil ou n'importe quoi, je ne sais pas quoi, il lui a enlevé cette chose et il lui a détaché ses cheveux dans la salat. Non. Et dans un hadith sahih, que Abdullah ibn Abbas était en train de faire la salat, il y a quelqu'un qui lui a tendu la main pour lui dire salam alaikum, et Abdullah ibn Abbas lui a répondu. Quand il a vu quelqu'un tendre sa main, il s'est trompé bien sûr, il ne savait pas qu'il était dans la prière, où là il croyait que ça se faisait dans la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a tendu sa main et il lui a je ne sais pas comment on dit, safaharu, il lui a tendu sa main, muhim. Donc voilà, yani, certains disent là que pendant la salat, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et moi j'ai une recherche comme ça personnelle sur les choses qu'on peut faire dans la salat. Peut-être qu'un jour, Inch'Allah, quand on arrivera au moment où il faut exactement, à l'endroit où il faut, je vous le dirai, Inch'Allah ta'ala. Quelqu'un me dit, vous avez du zitzitoun, buvez-en, ça va vous faire du bien à votre toux, avec du miel. Allah yashafik, amin. Cheikh Al-Bani a dit dans le livre que c'est pour les hommes, il me semble. Naam, c'est pour les hommes quand je parlais des cheveux. Naam. Pour ces nasa'ih. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la règle, le chokm pour celui en ce qui concerne voir la qibla? Chokm le mouchehid li kaaba ou ghayr mouchehid. Quand on fait la salat, ou bien on voit la qibla, ou bien on ne la voit pas. Vous savez que tous, on est obligé de se diriger vers la qibla. Mais la qibla, la kaaba, je parle de la kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tous la voient? Moi je suis au Koweït, je ne la vois pas. Ceux qui sont en France ne la voient pas. Et ceux celui qui est près d'elle, il la voit. Donc, celui qui la voit, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers elle. Celui qui voit la Kaaba, il est obligé de se diriger vers elle. Et celui qui ne la voit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige seulement dans sa direction. Naam, il ne peut pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Imaginez que chacun de nous soit obligé de tourner à 100% vers le Kaaba. C'est impossible. C'est pour ça que on tourne vers sa direction, c'est tout. Vers sa direction. Et personne n'est sûr à 100% qu'il est à 100% et aller vers la Qibla. Mais à 100%, Inch'Allah, il est vers sa direction. Il y a une différence entre les deux. طيب alors qu'est-ce qu'il a dit ici? Salam alaikum, juste un témoignage pour le cheikh qui enseigne. Quand je tousse, je prends le sirop suivant. Phytotux, des laboratoires Lening. Présentation, Phytotux, sirop, flacon 250 mm. Composition, Phytotux, substance active, bombe de tolu, extrait concentré, pour sirop. Des artex, extrait concentré. Oula, oula, ce sirop anti-tussif contient des extraits de plantes. نعم بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير طيب on était où ici maintenant متى يسقط استقبال القبلة quand est-ce qu'on peut faire la prière sans se diriger vers la قبلة premièrement peut faire la prière sans se diriger vers la قبلة Salatu tatawu'i lirakib. Quand quelqu'un est sur sa monture, il est dans le bus, il est dans la voiture, il est sur un âne, il est sur un cheval, et il fait la salat nafila, surérogatoire. Quand tu fais la salat nafila, surérogatoire, tu n'es pas obligé de te tourner vers la qibla. An Jabir, radiallahu ta'ala anhu, An Jabir ibn Abdillah al-Ansari, قال, il a dit, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار quand il a fait une fois une غزوة je l'ai vu على راحلته sur sa monture صلى الله عليه وسلم متوجها قبل المشرق قبل المشرق متطوعا je l'ai vu se dirigeant vers quoi vers l'est en train de faire la salat en train de faire la salat surérogatoire sur quoi sur sa monture نعم وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. Et il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم faisait la prière sur sa monture d'après la direction qu'elle prenait. فإذا أراد الفريضة نزل في استقبال القبلة. Maintenant, s'il veut faire la prière obligatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de sa monture. Donc, la première règle, quand on est sur une monture ou là on est sur une voiture ou là on est sur le bus ou là. On peut faire la prière sans la qibla. On peut la faire comment? Seulement avec la tête. Tu dis Allahu Akbar, tu mets tes mains sur ta poitrine, tu commences à lire tout en étant assis. Quand tu dis Allahu Akbar pour descendre, tu descends un peu ta tête. Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, trois fois. Quand tu lèves ta tête, tu dis Sami Allah liman hamida. Ensuite, tu descends la tête encore plus pour le sujoud. Tu dis Allahu Akbar. Tu fais le sujoud avec ta tête. Rabbil Ala wa bihamdi, trois fois. Et comme ça, jusqu'à ce que tu termines la salat. Mais, de préférence, je dis bien, c'est pas obligé, mais de préférence. Si on connaît la qibla, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la tête vers la qibla pour dire Allahu Akbar, et ensuite, on laisse la voiture partir dans le côté où elle veut. Ou la monture partir dans le côté où elle veut. Donc, de préférence, pour salat nafila, de préférence, si on connaît où est la qibla, on se tourne d'abord vers la qibla, on dit Allahu Akbar, et ensuite, on termine la salat sans la qibla. D'après la voiture où elle tourne, et d'après le cheval où il tourne. Il n'y a pas de mouchkila. Mais si on ne sait pas où est la qibla, on la cherche, on dit Allahu Akbar, Allah Ta'ala dit, Haythu matawallu, fathamma wajhullah. Il n'y a pas de mouchkila. Vous faites la salat, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Et là-bas, le visage d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Deuxièmement, qui peut faire aussi la salat sans se diriger vers la qibla? Al-kha'if ou al-marid ou al-ajiz ou al-mukrah. Celui qui a peur de l'ennemi. Et le malade qui ne peut pas se tourner vers la qibla. Ou al-ajiz ou al-mukrah. Maintenant, on ne parle plus de la prière nafila. On parle même de la prière obligatoire. Supposons que quelqu'un soit malade, il est à la maison ou là il est à l'hôpital. Il est dans un lit de façon à ce que la qibla est dans son dos. Et cette personne ne peut ni se lever pour se tourner vers la qibla, ni les fermiers et les infirmiers n'acceptent de lui tourner le lit. On ne peut pas dans un hôpital, on dit à l'infirmier ou au docteur, on lui dit tourne-moi le lit pour que je sois du côté de la qibla. Ça, on ne peut pas le faire dans l'hôpital. Sauf si Allah alam, si on est dans une chambre yani personnelle. Non. Quelqu'un qui est comme ça, comment il va faire? Il va faire la salat sans se tourner vers la qibla. car il aura à choisir entre deux choses, ou bien ne pas faire la salat du tout, ou bien la faire sans être dirigé vers la Qibla. Alors toi, qu'est-ce que tu choisis? Ou bien tu ne fais pas du tout la salat, ou bien tu la fais et non pas en te dirigeant vers la Qibla. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis la faire sans me diriger vers la Qibla. Naam. Donc quelqu'un, s'il est malade ou bien s'il a peur, on va à la guerre. Maintenant, il y a l'ennemi qui est en face de nous. Si je donne à l'ennemi mon dos, il va sauter sur moi à l'improviste. Je dois toujours être en face de lui. Comment on va faire la prière? Ou bien, il y a un groupe, ils vont se détacher, ils vont la faire, ça s'appelle Salat al-Khawf, vers la Qibla, et bien sûr, ensuite quand ils viennent, nous on part là-bas, il y a un système un peu compliqué pour expliquer ça, ça viendra inchallah dans Salat al-Khawf. Ou bien, on fait la prière sans d'être dirigé vers la Qibla, mais on se dirige vers qui? Vers l'ennemi. Naam, on fait la prière en face de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tout en faisant la prière, je suis en train de le voir. Si jamais il m'attaque, je suis là. Mais si je lui donne mon dos, il va sauter sur moi. Et il va m'anéantir. La même chose pour le mukrah. Le mukrah, c'est qui? C'est quelqu'un qu'on force. On lui dit, on va pas te laisser faire la prière. On va pas te laisser. Mais, si tu veux, on te laisse à une seule condition. Tu la fais pas vers la Qibla. Tu la fais vers ce côté, vers le nord, sinon je te laisse pas. Alors tu as deux choses. Ou bien tu fais pas la prière du tout, ou bien tu la fais vers le nord. Fais-la vers le nord. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal ne te fait pas supporter ce que tu peux pas. Ici, on t'a mis un revolver sur la tempe. On t'a dit, tu choisis, tu la fais pas du tout, ou bien tu la fais vers le nord ou vers l'ouest. Tu la fais vers l'ouest. Ma'alish. C'est mieux que de ne pas faire du tout la prière. Allah subhanahu wa ta'ala va me l'accepter comme si je l'avais faite vers l'est. Naam. Ensuite, comment fait celui qui ne sait pas où est la Qibla? Il se peut que on soit invité chez quelqu'un et que maintenant ce quelqu'un est allé dormir et on ne sait pas où est la Qibla. Et je me suis rappelé, je lui ai dit Allahu Akbar, j'ai pas fait salat al-Isha. Comment vais-je faire maintenant? Je vais maintenant demander à cet homme à 1h du matin, là je vais le réveiller, je vais lui dire montre-moi la Qibla. Peut-être c'est quelqu'un, j'ai honte de lui, peut-être c'est quelqu'un, je ne sais pas quoi. Ou supposons que je sois par exemple en voyage. Maintenant c'est l'heure de la prière. Maintenant, je n'ai pas de boussole avec moi et il fait nuit, et je ne sais pas comment vais-je faire pour la prière, pour la Qibla. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà le hadith. An Abdillah ibn Rabi'a an Abi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar. On était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage fi laylatin muzlima, dans une nuit vraiment obscure. Fa lam nadri ayna al-qibla. On a voulu faire la prière, on n'a pas su où était la Qibla. On n'a pas su. Fa salla kullu rijalin rajulin fi yadihi. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Chacun a fait la prière fi yadihi. C'est-à-dire en face de lui, comme on était. Moi je suis comme ça debout, j'ai fait dans cette direction. Celui qui était en face de moi a fait sa prière en face de moi. Celui qui était vers ma droite a fait la prière, yani, comme ça de profil. Donc chacun a fait la prière en face de lui. Il a dit فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَأَيْنَ مَتُوَلُّ فَتَمَوْجُ اللَّهِ. Quand le matin est venu, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hier on a fait la prière, on ne savait pas la Qibla, chacun a fait de son côté. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah a fait descendre un verset en cette circonstance, le verset où il est dit فَأَيْنَ مَتُوَلُّ فَتَمَوْجُ اللَّهِ. Où vous vous dirigez, c'est là-bas. Certains ont dit c'est là-bas la direction, c'est là-bas la Qibla. Ça veut dire que vous avez fait juste. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة. Ce صحابي رضي الله تعالى عنه a dit on était avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans يعني une petite غزوة. فأصابنا غيم فتحيرنا واختلفنا في القبلة. Ensuite il y a eu des nuages, beaucoup de nuages. On n'a pas su, au point où on savait plus où était la Qibla. On ne savait plus où était la Qibla. Il a dit فَصَلَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ. Donc chacun a fait la prière seul. Là, on a divergé. Moi, je lui dis la qibla c'est à gauche. Lorsqu'il me dit c'est à droite. Moi, je lui dis c'est en face. Lorsqu'il me dit c'est derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Chacun fait la prière d'après la qibla où il est convaincu. Car je ne peux pas faire la prière avec toi, je ne suis pas convaincu de ce que tu dis. Chacun a fait la prière donc d'après l'endroit où il était convaincu. Il a dit, et l'un de nous, quand on a terminé la salat, quelqu'un ou nous tous, on a mis comme ça, avec nos doigts sur la terre, on a mis des signes comme ça, pour voir le matin lequel de nous était dans la vraie Qibla. Chacun a mis un signe comme ça, a dessiné quelque chose avec son doigt, pour le matin il puisse voir, voilà où j'ai fait la prière, est-ce que je vais les voir, est-ce que c'était vrai ou pas. Il a dit, فَلَمَّا أَصْبَحْنَا, lorsqu'on s'est réveillé le matin, on a vu, فَإِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَ, alors qu'on a trouvé que personne n'avait fait la prière vers la Qibla. Tous en étaient ou bien à droite ou bien à gauche. Personne n'a fait la prière vers la Qibla. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, on a dit ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْعِبَادَ, il nous a pas dit de rattraper la salat, وَقَالْ قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ, mais au contraire il a dit votre salat était juste, était sahiha. Naam. Donc qu'est-ce qu'on prend de ce hadith, ces deux hadiths? On prend que quand quelqu'un est dans un endroit où il ne connaît pas la salat, mais ici l'écrivain ici ne l'a pas noté, peut-être qu'il a oublié, on doit commencer par quoi? On doit commencer par demander s'il y a quelqu'un qui connaît la Qibla. Naam. S'il y a quelqu'un qui passe, s'il y a quelqu'un qui n'est pas loin, je vais vers lui et je lui demande, barakallahu fik, où se trouve la Qibla? Car il habite là-bas, c'est lui qui connaît mieux que moi. Naam. Maintenant, s'il n'y a personne, mais il fait nuit, etc., il n'y a personne, qu'est-ce que je fais? Je choisis un endroit d'après ce que je sens dans mon cœur que c'est ça la Qibla. Naam. D'après, je regarde, d'après le vent, d'après les étoiles, d'après le soleil, s'il fait jour, d'après. Chacun se base sur quelque chose s'il peut. S'il peut pas, il choisit n'importe quel endroit et il fait la prière. Naam. Vous avez remarqué ici que les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ont fait chacun la prière seul. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'est pas convaincu de la vie de l'autre, il peut pas le suivre. Allah ta'ala, t'as pas obligé de suivre quelqu'un qui t'a pas convaincu. Subhanallah. Moi, dans mon cœur, je me dis la Qibla, c'est à droite. Celui-là, il me dit c'est à gauche. C'est impossible, je suis pas convaincu. Moi, je la fais à droite. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit elle est à droite, la Qibla, elle n'est pas à gauche. Smahli, donc quoi? Donc que chacun fasse la prière seul d'après sa conviction. Allah subhanahu wa ta'ala lui acceptera sa salat d'après sa conviction. Maintenant, si toi tu es convaincu qu'elle est à droite, et tu vas faire la prière avec quelqu'un qui est convaincu qu'elle est à gauche, sa salat ne sera pas acceptée. Parce que dans ton cœur, tu dis non, c'est pas vrai. C'est pas la Qibla. La Qibla, c'est de l'autre côté. Mais, si il y a un groupe, deux ou trois ou quatre ou cinq, ils sont tous convaincus vers une certaine direction, ces quatre ou ces cinq ou ces dix, qu'ils fassent la prière donc en groupe. Pourquoi? Parce que tout ce groupe est convaincu de la même direction. Et l'autre, la personne qui est restée seule ou les deux ou trois qui ne sont pas convaincus, ils font d'après leur direction. Ou bien ils font un deuxième groupe qui sera convaincu vers une autre direction. Mais comme ça. Ou bien chacun fait seul, ou bien chacun fait d'après le groupe, et en est d'après la direction où ils sont convaincus. Bi-idhnillahi azzawajal. Maintenant, comment qu'on fait la salat, comment qu'on va la faire, du début jusqu'à la fin, ça sera, inshallah ta'ala, les prochains durus, bi-idhnillahi ta'ala, qui vont venir. Les prochains durus, inshallah ta'ala, qui vont venir, on va voir comment on va faire la prière pour voir que, pour que vous sachiez que beaucoup de gens se trompent dans la prière qui est le plus important pilier de l'islam. Naam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fa in asabtu fa min Allah azza wa jal wa in akhta'tu fa min nafsi subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah ta'ala, dans 10 minutes encore moi, inshallah ta'ala, je répondrai à vos questions. Vous commencez, vous pouvez envoyer vos questions aux sœurs qui n'ont pas de point rouge. à Ta'amallah et c'est 77. Momo, vous lui renvoyez la question, Inch'Allah Ta'ala. Je répondrai par écrit, je vous répondrai, Inch'Allah Ta'ala, aussi aux autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت؟ هل فيه صوت؟ بارك الله فيك. طيب بنت هاشمي بوز لا بروميير كيستيون ان شاء الله. بنت هاشمي بوز لا بروميير كيستيون ان شاء الله. طيب بوتيت كان ني با بريت. ام عبد الله بوز لا بروميير كيستيون سي الي بريت. طيب خلاص. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comment doit-on faire exactement quand quelqu'un frappe à la porte et qu'on doit ouvrir, tout en sachant que nous sommes dans une chambre et qu'il faut donc sortir de la chambre, etc. Est-ce que lorsqu'on revient, on marche à reculons, qu'on se retourne, etc. Barakallahu fikoum. Naam. Ceux qui ont dit qu'on pouvait ouvrir la porte ont dit que, à condition que on ne fasse pas beaucoup de choses. Naam, à condition que la porte, par exemple, soit en face de nous, et qu'on marche directement, on ouvre et on revient en reculant. Ou bien, elle est un peu à droite la porte, je marche comme ça, trois ou quatre pas à droite, j'ouvre la porte, et je reviens bi'idhnillah azza wa jal. Mais ce n'est pas, par exemple, ouvrir la porte de la chambre, ensuite aller dans un couloir, ensuite aller, yani, ouvrir la porte et revenir. Ça, c'est beaucoup. Naam. Il faut, inshallah ta'ala, que on fasse des choses de façon à ce que on ne soit, yani, lorsqu'on nous voit, on dit pas celui-là, il n'est pas dans la salat. Yani, juste quelques pas, on ouvre, on revient bi'idna ta'ala, marche arrière. Naam. On revient, yani, à reculons. Naam. Surtout, quand la porte est ou bien en face, ou bien juste un peu à droite, ou juste un peu à gauche. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tayyib. Abu Hudayfa 76, 100. طيب ابو حذيفه prépare-toi inchallah. Pouvez-vous réexpliquer les cheveux détachés en salat, qu'en est-il pour la femme qui ont dit bœuf qui peut pas distinguer? Naam. Pour la femme, ce que j'ai dit pour les cheveux, c'est pour les hommes. Naam, c'est quand les hommes ont les cheveux les cheveux attachés. Naam. Je ne parlais pas bi'illah ta'ala des femmes, car la femme, elle fait toujours la prière avec quoi? Elle fait toujours la prière avec un foulard sur sa tête. Naam. Donc ça n'a rien à voir qu'elle attache ou détache ses cheveux. Mais l'homme, quand il fait la prière, ses cheveux doivent toucher le sol s'ils sont longs. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Ce n'est pas pour la femme. Naam. Abu Hudayfa. Salam alaykoum ya cheikh. Et en plein jour, comment fait-on pour repérer la qibla? Barakallahu fi. Naam. La qibla, on ne peut la connaître que lorsqu'on te montre déjà, on te montre d'abord c'est quoi sa position par rapport au soleil. Naam. Tu ne peux pas être tout seul dans un endroit olympique et tu dis la Qibla est de ce côté. Car la Qibla change de pays en pays d'après le soleil, comment qu'il tourne, et d'après l'est, où se trouve l'est. C'est pour ça que on te dit d'abord la Qibla c'est dans ce pays vers cette direction, ensuite tu marcheras toujours avec cette règle seulement dans le pays où tu es. Par exemple, je donne un exemple, par exemple en Algérie, quand quelqu'un veut chercher la Qibla, il demande seulement d'où se lève le soleil. Masha'Allah, en Algérie la Qibla marche avec quoi? Le soleil bi'idhnillah ta'ala, d'où il se lève. Mais dans d'autres pays, il se peut que la Qibla soit, yani, tu laisses le soleil à ta gauche. Tu cherches où se lève le soleil dans un autre pays et tu le mets à ta droite. Dans un autre pays, tu cherches où se lève le soleil et tu lui donnes peut-être le dos. Je ne sais pas. Donc ça change, Inch'Allah Ta'ala, de pays en pays. C'est pour ça que je ne connais pas comment on peut dire exactement comme ça qu'on est sur la Qibla. Naam. Wallahu Ta'ala A'lam. Ta'amallah, pose ta question, Inch'Allah. Wa fika barakallah, Abu Hudayfa. طيب تعامل الله بالتفكير ما بريباري لا كيسيون ام اسمها هذيك ام سليمان بوست لا كيسيون طيب أم سليمان a dit السلام عليكم. Si la femme ne met pas le qamis pour la salade, est-ce que sa salade est acceptée et pour les chaussettes c'est pareil? طيب, mais elle n'a pas expliqué. Si elle ne met pas le qamis, qu'est-ce qu'elle met? Si elle ne met pas le qamis, qu'est-ce qu'elle met pour la salade? Premièrement. Deuxièmement, pour les chaussettes, il y a une divergence entre les oulamas. Naam. Mais les oulamas ont dit que, comme a dit Umm Salama, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la salat mieux que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Umm Salama a dit, on faisait la salat dans un qamis, un dira, qui cachait quoi? Qui cachait nos jambes. Donc maintenant, si elle fait avec jambes découvertes, elle risque de, si sa salat est acceptée, elle risque d'avoir des hitmes. Elle risque d'avoir des hitmes. Pourquoi? Parce que c'est une aura entre elle et Allah. C'est pas une aura entre elle et les gens seulement, mais entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, au moins, elle met les chaussettes si le qamis n'est pas assez long. Naam. Pour sortir des divergences, inshallah ta'ala. Quant à, si elle ne met pas de qamis, avec quoi elle fait la prière? Je ne sais pas. Il faut qu'elle me dise d'abord cela. Naam. Allah a dit, salam alaykum, hayyakallah. Pour la femme qui met du kohl, doit-elle faire les ablutions pour la salat? Deuxième question, est-il sunna de prier la tête découverte? Barakallahu fik. Pour la femme qui fait le kohl, ça n'a rien à voir avec la salat, et ni avec les ablutions. Doit-elle faire les ablutions pour la salat? Deuxième. J'ai pas compris. Pour la femme qui met le kohl, doit-elle faire les ablutions pour la salat? Je n'ai pas compris. Les kohl n'ont rien à voir. Le kohl n'a rien à voir avec la salat ni avec les ablutions. N'a rien à voir ni avec la salat ni avec les ablutions. Je n'ai pas compris. Une femme qui a le kohl, elle fait la prière normale et elle fait les ablutions normales. Est-il sunna de prier la tête couverte? Ça se voit que cette personne n'était pas avec nous dans le dars. On avait dit que pour l'homme, il était makruh de faire la prière à tête découverte. Donc, si on se couvre la tête pour la salat, c'est une sunna et on a ajr. On a des récompenses bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Salafiyya du Nord, pose ta question, inshallah. Abu Bilal, prépare-toi. Bint Hashmi, prépare ta question. Bint Hashmi, pose ta question, si tu es là. Tayyib. Salam alaikum. Oum Suleiman, prépare-toi. Vous avez dit, l'homme doit couvrir les épaules pendant la prière. Pendant le hajj, après tawaf, l'homme découvre son épaule droite. Lors des prières qui suivent, doit-il recouvrir son épaule? Jazakallahu khair. Surtout pour avoir écrit numéro 1. Quand quelqu'un va au hajj et quand il commence à faire le tawaf, on fait le tawaf le koudoum, il est de la sunna, sinon il est obligé, disons il est de la sunna, de se découvrir le quoi? Les épaules. Naam, se découvrir les épaules. Mais ce que ne savent pas les gens, c'est que dès que le tawaf est terminé, on doit se recouvrir. Naam. Dès que le tawaf est terminé, on doit se recouvrir. C'est bid'a de laisser les épaules découvertes comme ça après avoir fait le tawaf. On voyait beaucoup de gens dans le hajj et la amra, beaucoup d'hommes ne savent pas. Ils restent avec l'épaule droite découverte jusqu'à ce qu'ils terminent le hajj. Allah al-musta'an. Il ne sait pas que c'est bid'a. Naam. Dès que tu termines le tawaf, tu dois, pour ne pas faire de bid'a, te cacher les épaules bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Salafia du Nord, Astaghfirullah, du Sud. Salafia du Sud, pas du Nord. Pose ta question, Bilnila. Tayyib, Oum Suleiman, pose ta question. Abu Bilal, prépare-toi, je t'enlève le rouge. Peut-être Salafia du Sud n'est pas avec nous. Oum Dina de moi. Salam alaikum, alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. Et comment va Abu Lina? Et comment va le petit chaton, bi'idhnillah? Lorsque nous entendons l'appel à la prière, pouvons-nous prier immédiatement dès que l'appel est fini ou faut-il attendre quelques minutes? Ceci concerne les sœurs bien sûr qui prient à la maison. Barakallahu fik et que l'on se prenne vous guérisse. Amen. Dès que on entend l'appel à la prière, naam, on dit avec lui ce qu'il dit. Dès qu'il termine, on peut faire la prière. Naam. Pour les femmes à la maison, dès qu'il termine, il dit La ilaha illallah, tu dis comme lui. La ilaha illallah. اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته et tu fais le adhan et la iqama et tu commences inshallah ta'ala. نعم Abu Bilal تفضل. Salafia du Sud dit j'ai posé ma question mais il la voit pas. نعم je la vois pas, elle n'est pas là, elle n'est pas là. La ukht Umm Abdillah est bloquée. Attention, Umm Abdillah, comment ça s'écrit? Il y a Umm Abdillah de Paris et il y a l'autre Umm Abdillah. Tu parles de qui, Ibn Hajmi? Tu parles de qui, Inch'Allah Ta'ala? Umm Abdillah ou la Umm Abdillah? Car maintenant, je vais la faire sortir, je vais la bouncer pour qu'elle rentre. Alors, Umm Abdillah, naam. C'est comme les autres avec I. Que tu es toujours avec à toi. Taïb. Umm Abdillah, je vais la chercher où est-ce qu'elle est. Umm Abdillah. Taïb. Où est-ce qu'elle est Umm Abdillah pour la bouncer d'abord. Umm Abdillah. Ourti, tu peux envoyer. Ourti, un PV, je sais plus, dès qu'on est pour une connexion. Non, je dois la chercher d'abord où est-ce qu'elle est. Umm Abdillah. Umm Abdillah. Taïb. Umm Abdillah 3 ce n'est pas elle. Umm Abdillah, Umm Abdillah, ça c'est pas elle. C'est la fille de Lauren. Umm Haroun, Umm Suleyman, Abu Ikhlas, Abu Soumeya, Umm Amina, Umm Sakina, Abu Nour. Umm Abdillah 91, c'est pas elle aussi. Je lui miss. Y'a pas Umm Abdillah, je l'ai pas trouvé. Bint Hajmi. Si tu vois où elle est, tu me dis, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Pardon, je ne l'ai pas trouvé. Non. J'ai bien cherché, je ne l'ai pas trouvé. Taïb. Abu Bilal a dit. Salam alaikum, shalom salam. Lorsqu'on oublie une rak'a, doit-on faire les deux prosternations après le salam ou avant barakallahu fik? Et après l'asr, si on rentre à la mosquée pendant le zénith. Peut-on faire tahiyat al-masjid et pour les prières obligatoires? Peut-on faire le taqbil vers la qibla et changer la direction quand on est sur une monture? En principe, Abu Bilal, Inch'Allah Ta'ala, il faut poser deux questions, Bilal Ta'ala. Naam. Tayyib. Toi, tu as dit, et après l'asr, si on rentre à la mosquée pendant le zénith. Le zénith, il peut pas être après l'asr. Le zénith, c'est avant d'or. Naam. Le zénith, c'est juste avant Zawal. Il ne peut pas être après l'asr. Et peut-on faire tahiyat al-masjid? Et pour les prières obligatoires, peut-on faire le taqbil vers la qibla et changer de direction quand on est sur une monture? Naam. Je réponds, Inch'Allah Ta'ala, à la première question. Quand on oublie une rak'a, est-ce qu'on fait les deux prosternations avant ou bien on les fait après? Ça, je vais expliquer, mais j'ai peur que ça soit un peu compliqué. Mais ça va venir, Inch'Allah Ta'ala, en son moment. Et je vais expliquer un peu. Celui qui a compris, celui qui comprendra, il dira Alhamdulillah. Celui qui ne comprend pas, il dit Qaddar Allahu ma sha fa'al. Et il attend le jour, Inch'Allah Ta'ala, où je vais expliquer. Bint Hashmi, dis-moi s'il y a le son d'abord. Terrible. D'accord. Regardez, pour savoir si on fait les prosternations avant le salam ou là après le salam. C'est quoi la règle? Je vais donner un exemple. Supposons que je sois en train de faire salat al-isha. Et maintenant, je me suis levé et je me dis, est-ce que c'est la quatrième ou la troisième? Est-ce que c'est la quatrième ou la troisième? Est-ce que c'est la seconde ou la première? Est-ce que c'est la troisième ou c'est la deuxième? Comme ça se passe. Umm Abdillah, elle dit elle est vers la fin. Je vais la chercher vers la fin. أم صفية، أم فاروق، أم حفصة، ناطفة، أم صفية، قاسي سالف، أم سليمان، تخيزور، أبو شيمة، أبو خالد، أبو سمية، مسلمة، ليلى، أبو فلم، أم أمينة، الفاري، الأندلسي، أم سكينة، الهودة، ياسين، أم إبراهيم، أبو نوح، نيلة، عام الله، عبد الغني، أم عبد الله الفنتيون، أم صفوان، نصيحة نف، نصيحة نف. طيب جو صوت ديدي الصفوة، أم عبد الله، نعم ابن عبد الله، الحمد لله، الحمد لله. طيب moi j'ai pas compris, moi je croyais qu'il fallait la faire sortir, j'ai pas compris. نعم maintenant on me dit il faut pas la bouger, moi je savais pas. خير ان شاء الله، je savais pas. نعم quand quelqu'un نعم quand quelqu'un ne sait pas, il dit par exemple est-ce que c'est la quatrième de la Aïcha ou est-ce que c'est la troisième. Regardez la règle, qu'est-ce que vous faites. Celui qui dit est-ce la quatrième ou est-ce la troisième, ou bien il ne sait pas du tout, il ne sait pas du tout si c'est la quatrième ou si c'est la troisième. Ça veut dire à 50% c'est la quatrième et à 50% c'est la troisième. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se base toujours sur le moins. Le moins ici, c'est quoi? C'est 4 ou c'est 3? C'est 3. Il dit, alors je vais dire, c'est la troisième, Inch'Allah Ta'ala. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, puisque c'est la troisième, il ajoute la quatrième et il fait les prosternations à l'intérieur de la salat. Naam, après le teshahud, au lieu de dire salam alaikum, il fait deux prosternations. Ensuite, il ne fait pas un autre teshahud. Ensuite, il dit salam alaikum salam, il a terminé sa salat. Pourquoi? Il a fait deux prosternations à l'intérieur de la salat. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas si c'était la troisième ou la quatrième. C'était juste à 50%. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme si c'était à la troisième, il choisit toujours le moins et il fait deux prosternations à l'intérieur. Maintenant, dans le même cas, il ne sait pas si c'est la quatrième ou si c'est la troisième. Mais il se dit, à 70%, c'est par exemple la quatrième. Ou bien, à 70%, c'est la troisième. Non, j'ai des doutes, je sais à peu près que c'est ou bien la quatrième ou c'est la troisième. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Ici, il a un tarjih, il a fait le tarjih. Il a dit 70% c'est la troisième, 70% c'est la quatrième. Qu'est-ce qu'il fait? Il se base sur tarjih. Il se base sur la chose dans son cœur qui lui a dit c'est la troisième ou bien c'est la quatrième. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il fait des prosternations après la salat. Quand il termine la salat, il dit salam alaikum à droite et à gauche. Il se prosterne deux fois et il redit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Pourquoi ici il a fait après? Parce que il avait 70% que c'était telle chose ou telle chose. Maintenant, s'il avait dit à 70% c'est la quatrième, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il n'ajoute rien. Il dit c'est la quatrième, 70%. Classe. Donc il fait comme si c'était la quatrième et il fait des prosternations après la salat. Mais s'il s'était dit c'est à 70% la troisième, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il ajoute la quatrième, il ajoute une rak'a et il fait les prosternations après la salat. Inch'Allah Ta'ala, c'est compris. Celui qui a compris dit Alhamdulillah et l'autre il dit Qaddalallahu ma sha fa'al, j'attendrai que ça arrive. Naam. Maintenant pour l'autre question. Naam. Après que je réponde à celui-là, Bint Hashmi, donne-moi des questions de Salafia du Sud. Naam. Quand on rentre à la mosquée, on fait toujours la salat, le tahiyyat de masjid. Que ça soit au zénith ou là à 3h du matin. Non, à n'importe quel moment, on rentre dans la mosquée, on n'essaie pas de voir, yani, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est zénith, est-ce que c'est l'asr. Ne cherche pas à comprendre. Quand tu rentres à la mosquée, ne t'assois jamais sans faire la tahiyyat al-masjid. Sauf si tu vas faire une autre salat, tu vas faire le fajr ou la doha ou là, c'est pas la peine de faire tahiyyat al-masjid. Elle rentre, inshallah ta'ala, à l'intérieur de cette salat. Et enfin, faire la qibla pour la prière obligatoire, c'est la même chose. Je suis par exemple en avion, disons en avion, c'est un peu difficile. Je suis dans un bus ou là dans ma voiture et je peux pas descendre. Je suis dans un bus, le chauffeur ne peut pas, ne va pas s'arrêter pour me laisser faire la prière. Qu'est-ce que je fais? Si je connais la Qibla, je me tourne vers la Qibla, je dis Allahu Akbar, ensuite je m'assois et je laisse le bus se diriger où il veut. Mais si je connais la Qibla, je commence d'abord par me diriger vers la Qibla. Si je la connais pas, je la fais n'importe où. C'est pour ça que j'ai dit dans l'avion, c'est un peu difficile, parce qu'il est impossible dans l'avion de savoir où est la Qibla. Sauf si bien sûr, le pilote te dit. Sinon c'est impossible. C'est pour ça que, en général, dans l'avion, on cherche pas la Qibla. C'est très difficile. Naam. Salafia du Nord, où est ta question, Inch'Allah? Fika barakallah Abu Bilal. Naam. Salafia du Nord a dit. Ah, pardon, du Sud. Je ne sais pas pourquoi je dis du Nord aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, Inch'Allah Ta'ala, tu vas habiter au Nord. Hein? Au Nord, c'est mieux. Naam, va habiter au Nord, Inch'Allah, c'est mieux. Salafia du Sud a dit. Salam alaikum. J'étais en état de Janaba et j'ai fait le Ghusl. Naam. Et j'ai fait ma prière le Maghreb et je me suis rendu compte après que j'ai pas dit Bismillah lors du Ghusl. Est-ce que je dois refaire ma prière? Et en plus, ça m'arrive plusieurs fois, j'oublie de dire Bismillah pendant mes ablutions. Qu'est-ce que je dois faire? Barakallahu fikoum. La solution est très simple, Inch'Allah Ta'ala. Quiconque est en train de faire, par exemple, le wodo. Il est dans le wodo et il se rappelle. Il n'a pas terminé le wodo, il se rappelle. Il se dit, j'ai pas dit Bismillah. Qu'est-ce qu'il fait? Il le dit au moment où il était. Et il termine. Sam. Je me suis rappelé quand j'étais aux cheveux. Maintenant, quand je suis au plein cheveux, je dis Bismillah et je termine. Je reviens pas marche arrière. La même chose pour le Ghusl. Je suis en train de faire le Ghusl. J'arrive à mes pieds. Je dis, j'ai pas dit Bismillah. Je dis Bismillah et je termine mes pieds. Mais maintenant, si j'ai terminé mon wudu ou bien j'ai terminé mon Ghusl, c'est pas la peine de revenir vers Bismillah. Khlas. C'est trop tard. Inch'Allah Ta'ala. C'est comme ça que disent beaucoup d'ulama. Ils disent, khlas, c'est accepté. Parce que ce n'est pas une condition. Certains disent, c'est seulement un mustahab. Naam. Et ceux qui ont dit wajib, ils ont dit wajib ma al qudra. C'est obligé, mais avec le souvenir, pas avec l'oubli. Avec l'oubli, il tombe bi-idhnillahi azza wa jal. Et regardez le mot. L'égorgement. L'égorgement, et Abdullah ibn Abbas a dit, si tu dis pas bismillah, khlas, tu manges. L'égorgement, tu vas manger le haram. Yani, le wudu, inshallah, c'est plus facile que cela. Bi-idhnillahi azza wa jal. Tayyib. Momo, est-ce que tu as des questions? Je t'ai oublié. Est-ce que tu as des questions? Ta'am Allah, pose ta question, inshallah. Salam à 57, prépare-toi. Je t'enlève le point rouge pour préparer ta question. Et quand je te dis pose-la. Ta'am Allah, pose ta question, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Est-ce que pour une femme qui est en sortie, est-ce que pour une femme qui est en sortie dehors ou bien en voyage en voiture, est-il permis qu'elle prie assise dans le véhicule car elle serait vue des gens lors de l'accomplissement de la salat, pour une salat obligatoire? Pour une femme qui est en voyage, qui est sorti dehors, ou bien en voyage en voiture, elle doit faire la salat, pas dans la voiture. Elle doit descendre de la voiture et faire la salat fard. Que les gens la voient ou ne la voient pas, ça n'a aucune importance. Naam, elle essaye toujours d'être dans un endroit assez caché. Par exemple, derrière la voiture, derrière un arbre, derrière son mari, derrière quelqu'un. Si elle peut pas, elle l'a fait devant tout le monde. Naam, en essayant toujours de gagner, d'être dans un endroit toujours assez caché. S'il n'y a pas, elle n'a pas d'excuse pour la faire assise dans la voiture. Naam, elle descend, elle fait la prière, bi'idhnillah ta'ala, dans un endroit où même les gens la voient, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un, comme je dis, s'il y a quelqu'un, hein, son mari ou là, elle essaye de se cacher, ou là, il essaye par exemple d'être derrière elle quand elle fait la prière. Et s'il ne peut pas, elle l'a fait comme ça, devant les gens, bidnat ta'ala, ce n'est pas interdit. Il n'y a rien qui dit que, à cause des gens, elle ne fait pas la prière. Naam. Momo, tfadl, c'est à toi, Inch'Allah ta'ala, la question. Tfadl. Donc, comme j'ai dit pour la femme, elle essaie de se cacher, mais quand elle ne peut pas se cacher, elle l'a fait. Il n'y a rien qui interdit cela, non. Momo, c'est à toi la question, Inch'Allah. Et après, salam à 57. Ça y est, pour ne pas perdre de temps, salam, pose ta question, Inch'Allah. Momo a dit, quel est le jugement à propos des dessins animés et des jeux de société, non. Quel est le jugement à propos des... Quel est le jugement? Pardon, rappelez la question, je dis plus la question. Quel est le jugement? Non, pour les dessins animés et pour les jeux de société. Non, pour les dessins animés, c'est plus ou moins d'après, c'est quel genre de dessin animé? Non, il y a des dessins animés qui sont vraiment interdits. Non, qui apprennent aux gens comment vivre, par exemple, à l'européenne. Hein, qui donne par exemple des gens, qui donne aux gens, yani, comment yani, parce que l'enfant, c'est un imitateur, il aime imiter. Quand il voit des dessins animés, ça, il se met à la place de cette personne, il voudrait parler comme cette personne, il voudrait s'habiller comme cette personne. C'est pour ça que les dessins animés, où il y a la petite fille, à l'européenne, habillée à l'européenne, en mini-jupe, etc., et c'est la danse, c'est la musique, tout ça c'est haram, tout ça c'est haram. Si ce sont des dessins animés, yani, normal, où on parle par exemple d'aventure, on parle d'animaux, on parle de... C'est plus ou moins. Mais les dessins animés qui nous apprennent, qui apprennent à nos enfants, yani, comment les imiter dans le mode de vie, cela les ulama disent, c'est des haram. Non. Pour les jeux, ça dépend des jeux. Non, pour les jeux, ça dépend des jeux. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire jeu. Parce que je... de micro ou là ce sont des jeux comme ça yani, dans l'ordinateur, des jeux éducatifs ou là c'est plus ou moins valable des animés, hein. Avec une morale islamique, naam, c'est plus ou moins accepté, naam. Mais certains ont dit qu'il y a des dessins animés islamiques qui ne sont pas permis, ce sont des dessins animés qui ne sont pas acceptés, ce sont ceux où on montre une personne et on dit par exemple celui-là c'est Moussa alayhi salam, celui-là c'est Isa alayhi salam, celui-là c'est le fils de X, yani des prophètes. C'est des dessins animés, il faut s'en éloigner bismillah. Des jeux pour apprendre l'islam, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Salama 57 tafaddali. طيب. Avant de lire la question de Salama, je suis en train de chercher quelqu'un dans la liste, une seconde, inshallah. La question dit, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez cité le rôle de Cheikh Al-Albani sur la aura de la femme. Tout le corps sauf le visage et les mains. Parce que vous avez dit, le corps les lui-même. Est-ce qu'ils sont autorisés devant les non-mahram? Pouvez-vous nous donner l'interprétation des versets sur le mort, Allah Ta'ala parle de Khimar. Et le verset 59, Allah Ta'ala parle de Jilbab. Quelle est la différence entre Khimar et Jilbab? Pourquoi y a-t-il deux mots différents employés? Naam. Je commence par répondre par la deuxième. Le khimar, c'est quelque chose qui vient à la tête. Quelque chose qu'on met sur la tête. Certains juste supportent du khimar, petit couloir selon eux, pour ce verset, pour vous nous donner des avis savants, c'est ce verset barakallahu. Naam. Le verset du djilbab, il faut comprendre, il y a le djilbab et il y a le khimar. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je dois ouvrir la porte et je reviens. Une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saut. Fais saut ici. Naam. Taïb, salam alaikum. Vous avez cité que le qawl de Cheikh Al-Albani sur la aura de la femme. Tout le corps. Ensuite, vous avez dit, sauf le visage et les mains. Ensuite, vous avez dit, le corps et le aîné, est-ce qu'ils sont autorisés devant les non-mahal? Naam. En parlant du kuhl et du aîné, je veux dire, parce qu'on est en train de parler, de la aura de la femme dans la salat. Ça veut dire que son visage et ses mains sont pas aura. Ça veut dire que dans la salat, la femme peut rentrer dans la salat avec le kuhl, le noir aux yeux. Et elle peut rentrer dans la salat avec le aîné dans la main. Je ne suis pas en train de parler de ce qu'elle montre dehors. Je suis en train de parler toujours de la aura de la femme dans la salat. C'est-à-dire que dans la salat, il lui est permis de la faire avec le kohl et le aîné dans la main. Naam. En ce qui concerne le khimar et le jilbab, je dirais très vite que le jilbab, c'est quelque chose, c'est un habit, un vêtement qu'on met, qui commence par la tête. Voilà la différence entre le, par exemple, le jilbab et le hijab. Le hijab, c'est le kamis, c'est le dira. On le met par les épaules et il descend. Et le jilbab, on le pousse sur la tête et il descend. Alors, lorsqu'il a cité le khimar, il a dit وَلِيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Il a dit, quand une femme met le khimar sur la tête, quand elle met le khimar, elle ne met pas comme certaines qui, par exemple, le noue au-dessus du cou. Ensuite, on a tout le cou qui se voit. Ou là, qui le mettent de façon à ce que on voit le début de sa poitrine. Tout ça, c'est haram. Quand une femme met le khimar, elle le met, yani, il frappe, il faut qu'il vienne sur yani, sa poitrine, qu'il cache toute sa poitrine. Certaines femmes, quand elles font la prière, elles mettent un foulard comme ça, yani, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elles l'attachent derrière son cou, elles laissent son cou, par exemple, visible, ou là, le début de la poitrine. Une femme, quand elle met le khimar, elle doit cacher, yani, elle doit cacher sa poitrine et cracher son cou. Naam. Certains justifient le port du khimar, petit foulard seront par ce verset, pour nous donner les avis avant de verset. Naam. Il y a le khimar, c'est une chose, et il y a le jilbab, c'est une chose, et il y a le hijab, c'est une autre chose. Naam. Il y a trois choses. Naam. Une femme peut mettre même, yani, c'est mieux encore, qu'elle mette trois habits. Elle met par exemple ce qu'on appelle le qamis, ensuite elle met un foulard sur sa tête, ensuite elle met le jilbab en haut. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, le jilbab il peut lui tomber dans la rue. Elle se trouve avec quoi? Elle va se trouver avec un khimar, alhamdoulilah, et un qamis, et un hijab. Surtout le jilbab, il est plus souvent, yani, il tombe aux femmes. Il y a certains jilbab qui ont des formes spéciales qui tombent. Naam. C'est pour ça que, de préférence quand elle a un khimar sur sa tête, si jamais lui il tombe, elle se trouve avec le khimar bi'idna ta'ala et le kamis. C'est à qui le tour, inshallah ta'ala, maintenant? C'est à qui le tour, inshallah ta'ala? Abu Ahlul Asr, prépare-toi, inshallah ta'ala, après qui on commence par la salah, après Bint Hashmi. بنت هاشمي تفضل. Si on rate salat sobh, est-ce qu'on doit l'accomplir même si le soleil est en train de se lever, ou doit-on attendre que le soleil soit complètement levé? Barakallahu fik cheikh. Si on rate salat sobh, on doit l'accomplir au premier moment où on peut. Naam. Je me suis réveillé et j'ai trouvé le soleil en train de se lever, ou là il va se lever. Je vais vite faire salat sobh pour que le soleil ne se lève pas avant que je n'attrape au moins une raka. Naam. Mais si, je me suis levé, le soleil s'est déjà levé, khlas, il est complètement levé, il est sorti. Maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est trop tard pour le sobh. Donc qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, je commence par salat al-fajr. Je commence par la sunna du fajr. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je fais salat al-subh. Mais si je me réveille, il fait toujours nuit, il fait beaucoup nuit, classe, il n'y a pas de problème, je commence par le fajr, ensuite le subh. Mais si je me réveille, j'ai peur que le soleil se lève, qu'est-ce que je fais? Je commence par le subh, pour ne pas le laisser sortir. Ensuite, j'attends que le soleil soit complètement levé, pour faire salat al-fajr. Naam. Ahlul Athar, tafadlal, et Om Suleyman après lui. Naam. Ahlul Athar a dit, peut-on mettre du Coran en sonnerie du portable? J'ai deux questions. Quand commence la salat, quand commence le temps du sobh? Naam. Y a-t-il divergence entre les savants ou pas sur les débuts de son temps? Car dans les mosquées, la plupart le font en même temps que Sunnat al-Fajr, direct après. Et d'autres disent qu'il faut attendre environ 15 minutes après le Fajr, barakallahu fikoum. Pour le pour la sonnerie du portable, on ne peut pas mettre le Coran. Naam, on ne peut pas mettre le Coran pour la sonnerie du portable. Naam, car le Coran n'a pas été descendu pour sonner. Naam, il a été descendu pour qu'on le lise et qu'on l'applique et pour apprendre de lui la aqida et la sharia et aussi l'akhlaq. Et ce n'est pas pour le faire comme une sonnerie. Naam, on ne doit pas mettre le Coran pour sonnerie bi-idhnillah azza wa jal du portable, sinon on l'a dévalorisé, on a enlevé de sa valeur. Et des fois on peut oublier, on est avec le portable dans les toilettes et il commence à lire le Coran. Naam. Salat al-Subh, il n'y a pas quelque chose qui dit que Salat al-Subh c'est à telle ou telle heure. Salat al-Subh, c'est il faut voir le Fajr al-Sadiq. Il y a deux Fajr, il y a le Kadhib, il y a le Sadiq. Quand vient le vrai Fajr, il se dessine à l'horizon le trait blanc qui sépare de la nuit, sépare le entre le noir et le blanc. Celui-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire bi'idhni ta'ala que le Fajr est rentré. Ce que je sais, c'est qu'en général, on doit attendre à peu près un quart d'heure jusqu'à 20 minutes pour faire Salat Subh après Salat al-Fajr. Naam. Non, pas après Salat al-Fajr. Après le Adhan du Fajr. On doit attendre à peu près entre 15 et 20 minutes bi'idhni ta'ala pour faire Salat al-Subh. C'est d'après les pays. Je sais qu'en Algérie, ils disent au moins 20 minutes. Ici au Koweït, ils disent au moins 25 minutes. En France, je ne sais pas, mais ça peut être, c'est au moins un quart d'heure. Naam. Car, dans tous les pays du monde, ils appellent à Salat al-Fajr avant son heure. Je ne sais pas pourquoi. Naam. Allahu al-Musta'an. Où est Oum Abdullah? On me dit de lui lever les points rouges. Mais où est-ce qu'elle est d'abord? Naam, où est-ce qu'elle est d'abord? Dans le paltok, s'ils avaient réfléchi à une chose, ils auraient fait, quiconque rentre, il a un numéro. Quiconque. 1, 2, 3, 4, il s'est classé. On cherche quelqu'un, on lui dit par exemple, numéro 13. Il va directement, il le trouve. Naam. Maintenant, je suis en train de chercher Oum Abdullah. Et je lui ai enlevé l'akhar. Je lui ai enlevé, inshallah. Maintenant, on est avec qui? On était avec qui? Abu Nadir. Salam alaikum, cher. Peut-on faire des salats surrogatoires autant que l'on veut ou y a-t-il un nombre défini? Naam. De préférence, on ne fait pas plus de 13. De préférence, on ne fait pas plus de 13. Comme a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait plus de 13 rak'ah. Et nous on ne peut pas être mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que de préférence on ne fait pas plus de 13 rak'ah bi'idhnillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Certains ont dit on peut, certains ont dit comme Cheikh Ibn Uthaymin et les autres, car la vie de 13 c'est la vie de Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et beaucoup d'autres ont dit tu peux faire illimité, ce n'est pas haram. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا لجوز هذه دعونا. طيب مم واسكوا عن كيسيون اتعم الله طعم الله واسكوا عن كيسيون طعم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته الشيخ كالله وزاكوه بلوفير دوس لنا ولكم آمين أبو أبو تخفامي آمين. جزاك الله خيرا pour le temps que vous passez avec nous. جزاك الله خيرا. Y'a pas de question. En fait, je fais l'école à la maison. J'habite en France, j'ai une fille de 9 ans qui a un examen en fin d'année obligatoire de piscine. Actuellement, je fais des cours de piscine avec ma belle-sœur. Bon, actuellement, je fais des cours de piscine avec ma belle-sœur qui est chef et la kofar. Ai-je le droit de faire cela tout en sachant que savoir nager dans la religion est une chose importante et sachant que c'est une piscine publique, mixte, et que ma fille voit la aura des hommes et des femmes? Et que ma belle sœur va à la piscine à cause de nous et qu'elle est en maillot de bain. Allah al-Musta'an. le prophète avait la tête couverte quand il priait, mais comment sa tête était couverte, barakallahu fikoum, moi je me couvre ma tête avec une chachia, est-ce suffisant ou non? Naam. Une fille qui a 9 ans n'a pas le droit de quoi? D'aller dans une piscine mixte. Naam. Et même si elle allait dans une piscine où il y avait des filles, elle devrait toutes se couvrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha, elle avait 9 ans. 9 ans, là, c'était sa femme. C'était sa femme, masha'Allah. 9 ans. Naam. Une fille à 9 ans, classe. Elle a commencé à se connaître, elle a commencé à découvrir, à se découvrir et à découvrir les autres. Et maintenant, celle-là, quand elle va, elle est la cause de sorte que quoi? Que sa belle-sœur va avec elle en maillot de bain. Car sa belle-sœur va à la piscine à cause de cette fille. S'il n'y avait pas la fille, elle serait pas, peut-être elle ne serait pas allée à la piscine. Maintenant, on va avoir un autre péché, celui de pousser l'autre à aller se déshabiller devant les gens. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Naam. Il faut inshallah ta'ala éviter d'envoyer cette fille à la piscine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime les gens qui nagent, mais ils nagent pas dans le haram. Ils nagent dans quelque chose de halal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam courait, il faisait la course avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Ils ont fait deux fois la course. Une fois c'est elle qui a gagné, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attendu jusqu'à au jour où il a vu elle était devenue assez grosse, elle avait un peu de ventre, etc. Il a fait la course avec elle et il a gagné. Il lui a dit, celle-là c'est comme tu m'as gagné il y a quelques années. Mais il n'a pas couru au stade, il n'est pas parti avec Aïcha au stade et ils ont couru. Mais ils ont couru quand ils étaient seuls. Certains ont dit à la sortie de la ville où il n'y avait personne, et certains ont dit il faisait nuit. Naam, si quelqu'un a une villa, masha'Allah, il a la piscine, qu'il nage, yani lui et ses enfants, lui et sa femme et ses enfants, s'ils sont couverts, ils cachent leur awra. Et s'il a, masha'Allah, une ferme, pas seulement yani une villa, il a une ferme, masha'Allah, qu'il court, qu'il fasse la course avec sa femme, ou bien la course à pied, ou bien en vélo, ou bien en voiture. Naam, masha'Allah, c'est pas haram. Mais ce qui est haram, c'est la mixité. Naam, ce qui est haram, c'est la mixité. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couvrait la tête? Il se couvrait des fois avec une chachia, comme tu dis toi. Naam, une chachia. Et des fois, il mettait aussi le turban. Il mettait le turban. Quand on met le turban, on le met sur la chachia. C'est pas comme certains le font directement, le mettent directement sur la tête. Il y a une divergence sur cette chose quand on le met directement sur sa tête. Ibn Taymiyyah a dit c'est permis, d'autres ont dit ce n'est pas permis. Mais on met d'abord une chachia et on le met dessus, bi'idhnillah ta'ala. Et, ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, ce qu'il a dit, c'est que certains ne le font pas descendre autour du menton. Naam, c'est ici où il y a la divergence. Pour ceux qui ne le font pas descendre au-dessus du menton. Ibn Taymiyyah a dit c'est permis, et d'autres ont dit non, ce n'est pas permis, il faut d'abord qu'il passe par le menton, par en bas. Naam. Al-Muhim, voilà inshallah ta'ala pour la réponse. Oum Abdullah pose ta question inshallah. Je vais lire la question une seconde. Lors d'un voyage en avion, est-il préférable de prier dans l'avion à l'heure ou d'attendre l'arrivée et prier correctement? Naam. Pour quelqu'un qui voyage, il peut inshallah ta'ala prendre avec la permission de quoi? D'attendre à l'arrivée. Hada, c'est dans le cas où, lorsqu'il a commencé le voyage, l'heure de la prière n'était pas encore rentrée. Mais si l'heure de la prière est rentrée, par exemple, je fais la prière à la maison et je pars. Ou bien je la fais à l'aéroport et je monte dans l'avion. Mais maintenant, si je suis monté et que lorsque je suis monté, l'heure de la prière est venue, là, on choisit entre deux choses. Ou bien on la fait dans l'avion, même si on ne connaît pas la Qibla, ou bien on la laisse là-bas et on joint avec l'autre salat. On joint avec l'autre salat, c'est-à-dire, yani, on va joindre ta'khir, on va retarder et joindre bi'idhnillah ta'ala. Donc c'est d'après ce que veut la personne. Les deux se font. Les deux se font. Surtout si quelqu'un, quand il est en avion par exemple, surtout s'il connaît où est la qibla. Naam. Mais s'il veut, il attend jusqu'à ce qu'il arrive et il joint avec l'autre salat. Mais certains ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Certains, quand ils arrivent dans leur pays, par exemple, il n'a pas fait le dhuhr, il a dit je vais. Il n'y a pas de son, Ben Hashim, il n'y a pas de son. Sayyid, Oum Abdullah, il y a le son. Sayyid, c'est bien. Donc c'est Ben Hashim qui n'a pas. Certains, ils disent par exemple, je vais faire la prière de dhuhr, par exemple, avec l'asr, quand j'arrive dans mon pays, par exemple. Et des fois, certains, quand ils arrivent, masha'Allah, il est encore tôt. Le asr est loin. Il reste une heure ou une heure et demie pour l'asr. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, moi, je fais pas la prière. J'ai dit que j'allais grouper. Ça, c'est une faute. Tu allais grouper parce que tu croyais que quand tu allais arriver dans ton pays, l'heure de la prière serait sortie. Donc, tu la ferais avec le asr. Mais maintenant, tu es arrivé, il est toujours le dhuhr. Et il reste une heure pour l'asr, une heure et demie. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de faire salat ad-dhuhr. Naam, tu dis pas j'attends pour grouper. Tu groupes. Quand tu arrives là-bas, tu trouves que c'est trop tard. Naam. Abu Abdurrahman, tafadhal. Tayyib. On ne peut pas perdre de temps, inshallah ta'ala. Que quelqu'un pose une question dans la salle, inshallah ta'ala. Momo, pose ta question si tu as une question, Momo. Abu Abdurrahman. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir concernant la prosternation de distraction. Est-ce qu'il faut s'asseoir de la façon mutawarrikan, comme à la quatrième rakat, ou s'asseoir muftarijan, comme pour salat sop? Est-ce que les takbiri et salam sont à haute voix? J'ai une deuxième question. Je voulais savoir quel comportement avoir avec son père musulman lorsqu'il pense que suivre la sunna authentique est un nouveau islam. Naam. Il y a quelques jours, une sœur m'avait demandé la question de est-ce qu'on pouvait compter ou la raconter aux enfants des histoires qui ne sont pas vraies, comme l'histoire du petit poussé, l'histoire de Osman avec celle qui a la robe blanche, j'ai oublié comment elle s'appelle avec ça y est. Maintenant, si la sœur qui m'avait posé cette question, elle est là, elle l'envoie à une sœur pour me dire que je suis présente pour les contes de fées, etc. Le crocodile gorille, jazakallahu khair. Sinon, je vais vous raconter le crocodile. Naam. Si la sœur, elle est là, qu'elle me fasse signe, bidna azzawajal. Une seconde, je suis en train d'enlever le point rouge à quelqu'un. Une seconde. Bidnillah ta'ala. Comme j'ai dit, c'est normal que ce soit pas l'année. C'est dommage qu'il n'y ait pas le numéro. Elle est là, la soeur. Alhamdulillah. Je vais lui répondre, inshallah ta'ala. Tayyib. Ah, Albani, là, mon bon, je suis Albani Ramayan. Tayyib. J'ai enlevé le point rouge à Bint Hashmi. Je voulais savoir concernant la prosternation de distraction. Est-ce qu'il faut s'asseoir de façon... Naam, on s'assoit mutawarrikan. Naam, on s'assoit mutawarrikan. Muftarijan. Je voulais dire muftarijan. Hein, on fait la prosternation. Muftarij. Et on fait la deuxième. Naam, c'est comme pour salat al-sobh. Naam, c'est comme pour salat al-sobh. Et ce n'est pas comme la fin du dhuhr, ni la fin du isha, ni la fin du maghrib. Incha'Allah ta'ala. Deuxième question, quand quelqu'un a un père qui dit que la sunna authentique est un nouveau islam, genre un nouvel islam, qu'est-ce qu'on fait? On est tous passés par là, soit avec le père, soit avec la mère, soit avec les frères, soit avec les tantes, on est tous passés par ce chemin. Toi, qu'est-ce que tu fais? Soit tu patientes tu patientes et tu fais des doigts. Et tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la marchandise d'Allah, c'est une marchandise chère. C'est le paradis. Donc moi je vais pas rentrer comme ça le paradis sans qu'on me fasse des problèmes, sans qu'on me fasse sortir de la maison, sans qu'on me dise tu as un nouveau din, sans que... Enfin, ce n'est pas facile. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis. C'est pour ça que quand on dit tu as un nouveau din, etc., si tu sais que tu peux parler, tu parles pour donner tes arguments. Si tu sais que parler va faire la fitna et va faire sortir de la maison, ça, tu te tais et tu dis Allah al-Musta'an. Tu dis Allah al-Musta'an, je patiente, j'ai des ajr bi'idhna ta'ala. Et dis-toi que tout ce qu'on t'a dit, on l'a dit à des milliers avant toi. Non, des milliers de frères et de sœurs, on leur dit, c'est un nouveau dîne, je ne sais pas d'où vous êtes venus, les ulama n'ont pas dit comme ça, nos grands-pères n'ont pas dit comme ça, ton père, ça fait 40 ans qu'il fait la prière, il n'a jamais entendu ceci, cela. Hein, tu dis Allah al-Musta'an. Si tu peux parler, on te donne l'occasion, tu parles. Si tu peux pas, tu dis Allah al-Musta'an et tu vas dans notre chambre et tu lis le Coran et tu les laisses jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse triompher son din et le fera triompher bi'idhnillahi azza wa jal. Pour les comptes aujourd'hui inshallah ta'ala. Cheikh, tu as oublié un morceau de la première question. Allez, je vais voir. Je voudrais savoir concernant la prosternation distraction. Est-ce qu'il faut la faire? Est-ce que les takbir et les salams sont à voix haute? Non. Le takbir, tu le fais, tu te fais entendre à toi, c'est tout. Non, c'est pas la peine de... S'il n'y a pas des gens, si tu ne guides personne dans la salat, tu le fais pour toi. Tu dis comme ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et tu te fais entendre à toi, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens derrière toi. Mais si tu es en train de guider les gens, tu fais le takbir à voix haute pour les faire entendre. Naam. Le takbir, quand tu es seul, c'est comme lorsque tu fais la prière, tu es seul. Tu dis Allahu Akbar à toi-même. C'est pas la peine de le dire très fort. Naam. Tu te fais entendre, c'est tout. Naam. En ce qui concerne les contes, est-ce qu'on peut raconter à nos enfants des histoires qui sont pas vraies? Aujourd'hui, bi'idhna ta'ala, j'ai entendu Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, dans une cassette, on lui a posé cette question, est-ce qu'on pouvait raconter à nos enfants des histoires qui ne sont pas vraies? Il a répondu, alayhi rahmatullah, il a dit, si les enfants, on leur dit que ce ne sont pas des histoires vraies, on peut alors dans ce cas leur raconter. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit alhamdoulilah, 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 c'est exactement ce que je faisais avec mes enfants. Je leur disais attention, je vais vous raconter des choses qui sont pas vraies. Et je racontais. Donc alhamdoulilah, que ce qu'il a dit s'accordait avec ce que je faisais. Donc on leur dit, voilà, je vais te raconter quelque chose, mais que ce n'est pas vrai. C'est seulement une histoire. Une histoire qui n'est pas réelle. Il va dire, c'est sûr, raconte. Ouais, l'essentiel c'est qu'il entende. Et tu lui dis voilà, on raconte que. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tayyib. On revient à Ousma. On revient à Oum Salama. Monsieur Oum Salama, Oum Suleyman. Oum Suleyman. Pose ta question, inshallah ta'ala.
Hein?
22h56, a dit Oum Abdullah. Il reste 4 minutes, masha'Allah. Ma Abdullah est revenu, masha'Allah. Elle était absente, je pouvais faire le dars, masha'Allah. Maintenant, ma Abdullah dit, attention, il reste 4 minutes. Attention, ultimatum, il reste 4 minutes, masha'Allah. Ma Abdullah, qui pense beaucoup au shirk pour ne pas se fatiguer, barakallahu fiha. Mu'adha dit, je prie dans une mosquée où la qibla est déviée. C'est-à-dire que l'imam se dirige vers la qibla et pas les prieurs. Est-ce qu'il est obligé au prieur de se diriger vers la Qibla, étant donné qu'il n'y a pas de place, ou bien suffit-il à lui-même de s'y diriger? Naam. C'est une question, inshallah ta'ala, assez difficile, et qui se pose beaucoup. D'ailleurs, on m'a envoyé ces jours-ci, on m'a envoyé une question où il est dit, je prie dans une mosquée, où,
il y a 10 degrés de différence. 10 degrés de différence entre la vraie Qibla. Il a dit comment qu'on fait. À cette personne, je lui ai répondu, je lui ai dit, attends, Inch'Allah Ta'ala, que je demande et je te rende la réponse. Pour te rendre la réponse. C'est la même chose ici, dans, pour cette question. Si la personne qui sait que l'imam se dirige vers la Qibla et je le vois comment qu'il est dirigé, j'essaye de me diriger comme lui. Naam. Je n'ai pas d'excuse comme ça pour que lui, il est vers la Qibla et moi, vers une autre Qibla. C'est comme ça que j'ai entendu que les ulama ont dit. Ça veut dire, je dois faire comme l'imam exactement. Et aller me tourner un peu vers la direction et c'est tourner l'imam. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Si je ne peux pas, Inch'Allah Ta'ala, vous m'attendez, je vous ramène la réponse des ulama, qu'est-ce qu'ils disent dans le cas où on ne peut pas. En principe, on doit se tourner, faire le maximum d'efforts pour faire exactement comme l'imam fait, bi'idhnillahi ta'ala. Une seconde. Ta'am Allah dit, un frère salafi a vu en rêve, Ibn Baz, Sheikh Ibn Baz, Allah yarhamou, qui lui disait de combattre avec les mujahidines en Tchétchénie. Comment interpréter ce rêve? Et la deuxième question, un homme peut-il se teindre la barbe en couleur aînée? Non. Pour la première question, on ne doit jamais se baser sur un rêve pour prendre un jugement. Pour dire, par exemple, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, par exemple, cette personne est une voleuse. Alors je vais dire, coupons la main à cette personne. Parce que j'ai vu dans le rêve, c'est une voleuse. On ne peut pas se baser sur des rêves pour prendre des jugements. Mais on peut se baser sur des rêves pour pencher, pour faire une chose, ou la pencher pour ne pas la faire. C'est tout. Mais pas pour des jugements dans la charia. Pour dire, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est kafir, ça c'est pervers, ça c'est mubtadi', ça c'est... Non. On peut pas se baser sur des rêves pour les jugements. Naam. Maintenant, si quelqu'un veut aller au djihad, il doit demander aux ulama qui sont vivants et non pas à ceux qui sont morts. Si quelqu'un veut aller au djihad, qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller au Chichen, par exemple, Tchétchénie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le portable et il téléphone. Il téléphone à Cheikh Salah al-Sheikh, à Cheikh al-Fawzan, Cheikh Sidlan, Cheikh Sidhan. Et il demande, est-ce que c'est le djihad dans tel pays ou ce n'est pas le djihad? S'il te dit c'est le djihad et que tu peux partir, tu as les moyens. Si tu ne pars pas, tu as des péchés. Et s'il te dit ce n'est pas le djihad et tu pars, tu as les péchés. Les deux c'est juste. S'il te dit c'est le djihad et tu as les moyens et tu ne pars pas, tu as fait un grand péché. Et s'il te dit ce n'est pas le djihad, la part c'est pas le djihad, c'est une fitna entre les musulmans. Ne pars pas et tu pars, tu as les péchés pour avoir désobéi aux ulama. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Ici chez moi, il est 1h du matin. 1h du matin, je dois, Inch'Allah Ta'ala, m'arrêter. Ensuite, j'ai aussi des choses à faire. Je vous rencontrerai, bi'idhnillah Ta'ala, mercredi pour salat, pardon, pour le dars du hadith. Je vous rencontrerai, Inch'Allah Ta'ala, mercredi pour le dars du hadith. D'ici à mercredi, astaudi'ukumullah, alladhi la tadi'u wa da'i'uham. بارك الله فيكم جميعا مروك وبارك الله فيك pour ces belles fleurs. Laisse-moi envoyer quelques fleurs avant de sortir. نعم. Je vais voir ici où j'ai de belles fleurs. نعم. واحدة deux et troisième fleur إن شاء الله تعالى. Et d'ici mercredi, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخي تام الله je t'aime en Allah سبحانه وتعالى. Et je vous aime tous dans la salle, frères et sœurs, en Allah subhanahu azza wa jal. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, pardon, j'ai oublié, juste avant de vous quitter, il y a avec moi l'Albani, Allah yarhamou. Pas le vrai Albani, le faux Albani. Il y a un faux Ibn Taymiyyah, c'est moi, et il y a un faux Albani. Celui qui est un ami à moi, qui assiste avec nous, il va, inshallah ta'ala, vous lire un peu du Coran avant de... qui était la sourate, inshallah ta'ala, sourate Qaf, bi'idhnillah, azza wa jal. Tafadhal cheikh. Et Amr Allah, vous me dites s'il y a le son, barakallahu.